Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold on, everybody. Here it comes.
Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 106, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de parler avec Joe Grant. Joe, c'est un ultra-trailer de haut vol, amoureux de la montagne, amoureux du Colorado où il vit, et toujours amoureux de la France où il a grandi et étudié. Et également un amoureux du vélo et spécialement du bikepacking. Joe, c'est un premier UTMB en 2009 avec une 20e place en 26h07, deux podiums sur la Hard Rock 100, une traversée des États-Unis à vélo, deux fois le Colorado Trail à pied et à vélo, une tournée des sommets du Colorado à plus de 4000 mètres à pied et à vélo, et je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain sans même me fatiguer. Dans la newsletter de cette semaine, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est gratuit et c'est instructif. Outre ce fantastique épisode de 2h25, vous aurez la présentation de la North Cuesta Track chez mes amis d'Inchnor. Également un récit de Vincent sur la GTB ou comment acheter un nouveau vélo en cours de route. Et enfin, un retour historique sur la défunte Trans-Iowa, grand-mère du gravel moderne. Et sans plus attendre, donc, Joe Grant.
Allô,
Joe Grant, bonjour, Richard Delhomme.
Tu m'entends?
Mais je t'entends hyper bien.
Ok, génial. Attends, je vais juste switcher, mettre mes écouteurs. J'espère que ça va pas tout faire.
Ça comme ça.
Ça va mieux là?
Ouais, là c'est bien.
Ok.
Ouais. Bon bah enfin, dis donc.
Ouais, je sais pas, hier ça voulait vraiment pas. Hein.
Ouais, bah il y a des jours comme ça, je suppose que c'est un petit peu comme en course, il y a des jours avec et il y a des jours sans, donc faut prendre son parti, je suppose.
Ouais, et puis surtout en ce moment là avec toutes les plateformes qu'on a, de la communication a tellement changé à ce niveau-là, donc on a pas mal de chance en fait parce qu'on a quand même plus d'options qu'avant. Moi, je sais que vivant aux États-Unis, et ma famille en France, donc quand on communique, c'était surtout sur Skype avant. Mmh. Mais maintenant, d'avoir plusieurs options, c'est pas mal quand même. Ça permet de mieux communiquer quand ça marche.
Ouais, bon, bah hier on n'a pas eu de bol, on va pas non plus passer la nuit là-dessus, mais toi l'après-midi et moi la nuit. Et justement. Ouais. Toi qui adoptes un mode de vie plutôt minimaliste, comment tu vis cette profusion d'outils technologiques qui n'existaient pas quand t'es arrivé aux États-Unis? C'était, si j'ai bien compris, c'était probablement vers 2005 ou un petit peu avant, donc une ère pré-Facebook, pré-smartphone, qui est arrivée encore un petit peu après. Mm-hmm. Comment tu vis, toi, tout ça, justement, un petit peu cette invasion technologique?
Je dirais que c'est c'est quand même pas mal utile pour le travail. J'ai quand même mon boulot a beaucoup changé en fait au fil des années et en grande partie grâce à ces outils, que ce soit tu vois même la cartographie, avoir des données disponibles tu vois sur le smartphone, c'est quand même assez extraordinaire. Bien sûr il y a les réseaux sociaux, tout ça qui sont quand même pas mal aussi au niveau pendant une pandémie d'être à la maison et de pouvoir toujours être en contact avec le monde et tout ça. Donc il y a des aspects qui sont, je dirais, plutôt positifs. Après, quand on en vient à l'essence de la pratique, à vraiment être en montagne et dans vraiment dans l'élément, là, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est plus une distraction. Donc c'est quelque chose que je dois consciemment, je dirais, essayer d'éteindre le téléphone. Je cours sans montre souvent. J'aime bien le côté simple et plus puriste. Donc j'essaie d'allier les deux de manière d'avoir un bon équilibre, que je puisse avoir assez de, je dirais, de photos, de tout ça pour utiliser quand je suis connecté, mais aussi bien pouvoir profiter de l'expérience d'un côté plus pur.
Donc ça veut dire que tu passes pas non plus ton temps, quand tu arrives à un sommet par exemple, à enchaîner les stories, à enchaîner les selfies pour dire « regardez, je l'ai fait » et plutôt te connecter aux éléments et à ce que tu viens de réaliser.
Voilà, donc ouais, c'est essayer de trouver un équilibre entre les deux. Bien sûr, il y a, et je dirais que c'est pas, tout n'est pas négatif avec dans le côté de faire une story, ou il y a aussi un côté faire un petit point pendant la sortie, faire des petites observations. C'est des choses qui sont spontanées, qui sont dans le moment, donc c'est assez intéressant, je trouve, de regarder, enfin de voir des choses qui sont moins réfléchies et plus qui se passent en fait dans le moment. Donc si on utilise la technologie de manière complémentaire, c'est assez intéressant. C'est le côté refaire, tu vois, refaire un petit sommet en courant ou un truc comme ça pour avoir la bonne photo, pour avoir la bonne petite vidéo, quoi que ce soit. Ça, c'est des choses qui sont moins intéressantes pour moi et que je fais moins. Donc, j'essaye au maximum d'incorporer ça, et d'avoir, par exemple, de mettre le téléphone en mode avion pour pas avoir de texto ou quoi que ce soit qui apparaisse. Ça, c'est un moyen de rester un peu dans le moment. Même si je fais une petite vidéo, au final, je suis en train de me parler un peu à moi-même, quoi. Donc il y a ce côté-là qui est pas mal. Ouais, d'essayer de pas trop, faire d'extra pour créer du contenu et que ça se fasse plus naturel.
Justement, j'ai bien regardé ton Instagram et ouais. Je me suis dit, tiens, les photos, elles sont bien contrastées. Il y a du noir, il y a du blanc, mais vraiment, vraiment noir, vraiment blanc. Ouais. Tu serais pas un fan de Ansel Adams?
Ansel, bien sûr, ouais, c'est dur de pas être fan, hein, parce que ouais. Bon, il a des clichés superbes, hein. Mais ouais, forcément, je tire mon inspiration de plein de choses différentes, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le noir et blanc parce que c'est focalisé un peu plus sur la nuance, la couleur, ça a tendance à primer en fait dans notre expérience de voir la couleur d'abord, et tandis que dans le noir et blanc on voit plus le contraste, la nuance entre les différentes choses dans la photo. Donc c'est ça qui m'intéresse un petit peu plus avec le noir et blanc, mais j'aime bien la couleur aussi.
Et ça t'impressionne pas quand même ce qu'il réalisait, le Ansel Adams, à la chambre, avec une méthode de développement super précise pour conserver les hautes lumières, alors qu'aujourd'hui, bon, on a des appareils vraiment monstrueux. Et c'est quand même difficile d'obtenir cet équilibre et d'obtenir le rendu qu'il avait sur Yosemite. Tout ça, c'est quand même super c'est quand même super impressionnant.
Ouais, et la qualité technique qu'il avait était vraiment ça partait de la composition, de faire la photo, jusqu'au développement et à la mise en galerie, tout ça. Donc il y avait vraiment un procédé qui commençait par la photo au début, mais il a tout le concept un peu en tête pendant qu'il est en train de créer sa photo. Donc il y a vraiment une vision d'ensemble et une technique d'ensemble sur tous les aspects, surtout quand il imprime des photos de très grandes photos. Ça c'est difficile à faire, et il avait tout un système avec un développeur sur des rails de train, tout ça. Donc c'était il était très en avance, et il a beaucoup poussé ce côté professionnel du début jusqu'à la fin, de vraiment ici on dit to shoot photographs, et donc c'est vraiment de ou to take photographs, donc l'idée de prendre, et lui c'était plus un make photographs, donc vraiment l'idée de faire, de créer la photo du début jusqu'à la fin.
Et t'es un petit peu essoufflé, c'est l'altitude qui fait ça?
Non, j'ai un peu froid. Il neige dehors, et je suis en bas là parce que j'ai la meilleure réception. Et je suis dans une pièce qui est assez gelée en ce moment. Donc je suis désolé, je suis en train d'essayer de me réchauffer là, j'ai trouvé une petite couverture.
Mais je suis désolé de te mettre dans une situation pareille.
Non, pas du tout. Non, c'est juste que on a le temps est un peu est en train de décider ce qu'il fait entre le printemps, l'hiver. Hier il faisait chaud, aujourd'hui il neige, donc c'est un peu cette entre-saison là qui
c'est un peu aléatoire, donc ça va, ça vient. Et t'es toujours voilà. Parce qu'en fait toute la partie biographie, née en Angleterre, etc., je l'aurais précisé rapidement dans l'intro de l'épisode, donc c'est juste pour gagner un petit peu de temps finalement et qu'on puisse parler de plein d'autres choses. Est-ce que t'es toujours à Gold Hill?
Non, j'habite à Durango maintenant, dans le sud du Colorado, donc c'est le sud-ouest, dans une zone qu'on appelle les Four Corners, donc ces quatre États en fait qui sont très proches, c'est les quatre coins en fait qui se rejoignent dans cette zone du sud-ouest du Colorado. Et ma femme enseigne à l'université ici, et donc elle a pris ce poste il y a 2 ans, et donc on a déménagé de Gold Hill à ce moment-là. Mais j'ai toujours beaucoup d'amis et de contacts avec le Nord.
c'est pas un territoire ennemi non plus. Donc, et c'est comment là où tu es? Parce que si encore une fois, je me suis bien documenté quand même, et c'est carrément le Far West, Gold Hill. On dirait un épisode de Retour vers le Futur 3 en fait.
Ouais, bah c'est pas. C'est vrai que c'est très différent de la France et certainement de la grande ville. Mais tu vois, Boulder, c'est à 20 minutes de Gold Hill. Donc Gold Hill, c'est une des premières villes minières, donc des mines d'or dans le Colorado. Et donc il y a toujours ce côté charme. Les cabanes en bois, tout ça, les routes en terre et tout. Ici à Durango, c'est assez similaire là où je vis. Il y a pas le petit village comme il y avait à Gold Hill, mais on est sur une route en terre. On est à 2500 mètres d'altitude. Ouais. Donc un peu dans les bois. Enfin, ouais, c'est pas mal aussi. On se plaît bien dans cette zone-là.
Bon, ouais, je suis obligé de. Là, tu viens de me parler de route en terre. Est-ce que à vélo, la pratique, finalement, gravel, s'impose, ou est-ce que c'est une alternative? Est-ce qu'il y a des routes bitumées, ou est-ce que c'est vraiment juste rouler dans le contexte tel qu'il est et adapter son matériel au contexte?
Alors, je dirais que ça dépend un peu le gravel, c'est énorme ici. Il y a énormément de gens qui pratiquent. C'est en pleine éclosion, que ce soit dans tous les magazines de sport, enfin de vélo, tout ça. C'est vraiment le gravel et le bikepacking, entre autres. C'est euh, c'est vraiment un sport qui est en essor en ce moment. Mais pour moi, personnellement, j'ai plus des sentiers vraiment VTT. Ouais. Durango, c'est une ville qui est très connue pour le VTT. Mmh. Donc, on a des super, super sentiers. Les trails sont vraiment très, très bien faits pour le vélo. Et il y a une différence vraiment entre la construction de sentiers qui sont spécifiques au VTT. Mmh. Comparé à des sentiers qui sont utilisés de manière pédestre au début et qui sont où t'as le droit d'aller faire du vélo, mais vraiment on a beaucoup de sentiers qui sont dans le design fait pour faire du VTT, et c'est assez extraordinaire.
Ça veut dire quoi dans le design fait pour du VTT, ça, dans la difficulté, dans les franchissements, les trucs comme ça?
Il y a ça, mais aussi dans le rythme, dans la manière où les virages sont dans toute l'esthétique, je dirais, du sentier est fait de manière à ce que, avec le vélo en tête. Donc quand tu descends et tu prends un virage, il y a le virage vraiment accompagne, c'est plus facile, je dirais, à rouler, et c'est moins saccadé comme sentier. Ça a plus un effet roulant, ou mais ça peut être super technique, mais c'est plus dans la fluidité du design qu'il y a une réelle différence avec un sentier qui est pas exactement fait ou construit par des gens qui veulent faire du vélo dessus.
Bah, ça passe en gravel quand même ou pas?
En gravel, ouais, c'est carrément. Ouais. Bah, un exemple, c'est pas vraiment un sentier qui est fait pour le vélo, mais où tu peux faire le vélo, c'est le Colorado Trail. Donc c'est un sentier assez connu ici, qui traverse l'état du Colorado, donc de Denver dans le nord jusqu'à Durango, où je suis dans le sud, et ça fait 800 km, et c'est 800 km en single. Et donc moi, la première fois que j'ai fait ce sentier, c'est en vélo, c'était en 2015, et je l'ai fait sur un vélo de gravel. Et donc c'est possible de faire des sentiers un peu VTT, ouais, en gravel, mais
on va en parler, parce que je crois que ça t'a quand même un petit peu grillé la saison. T'étais déjà grillé avant de partir sur le Colorado Trail, et ça t'a achevé, si j'ai bien compris.
Ouais, ça m'a pas fait du bien physiquement, on va dire.
Et justement, pourquoi vous êtes autant de trailers, ultra trailers, à vous mettre au vélo et au bikepacking? J'ai un petit peu la réponse, mais je préférerais que tu me le dises.
Bah, c'est fun, hein, le bikepacking.
Super, dis donc.
Bah, à la base, c'est ça quand même. Il faut avoir, je pense, une connexion directe et pure avec l'activité. Et ça se rapproche quand même beaucoup de l'ultra. Du moins de ma vision de l'ultra, et de faire vouloir explorer avec mes pieds. Et là, c'est le vélo, ça permet d'avoir plus d'équipement, d'équipement, de nourriture, tout ça, et de quand même pouvoir rouler de manière assez normale, comme si le vélo avait, il est plus lourd, le vélo, mais c'est tellement bien fait au niveau des sacs et tout ça, que on peut faire des sorties quasi normales, mais multijours. Donc ça c'est hyper intéressant, tandis que à pied, faut porter le sac et il y a tout ça. Donc c'est avoir, je pense, cette liberté de pouvoir tout mettre sur le vélo, et ce côté c'est un côté libre qui se rapproche beaucoup pour moi de la raison pour laquelle je cours.
Ouais, bah ça, on va en parler aussi un petit peu, parce que finalement, tous les trailers avec qui je discute me disent « Oh là là, l'essor du bikepacking en ce moment, ça me fait penser au début de l'ultra trail. » Mm-hmm. Et puis après, on sait ce que c'est devenu un petit peu, enfin, pas une grande foire, mais en tout cas, de plus en plus d'épreuves, de plus en plus de sponsors, la célébrité pour certains, etc. Et c'est intéressant peut-être de se demander d'où vient, enfin comment a évolué le trail et comment peut évoluer le bikepacking finalement. Mm-hmm. Parce qu'il y a des courses, il y a plein de trucs.
Ouais, et c'est une bonne observation et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles. Et pour moi, c'est un peu la raison que j'ai commencé à faire du bikepacking, c'est que j'étais un peu grillé au niveau de tous les événements, les compètes, les trucs et tout ça en course. Et j'en avais un peu, enfin, j'avais envie d'un retour aux sources et de quelque chose de qui était pas professionnel, qui était pas mon boulot, qui était quelque chose que je voulais faire comme ça parce que ça m'intéresse et que c'est pour faire autre chose un peu pour changer de feeling. Et ce que j'ai trouvé immédiatement, c'est au niveau de la communauté. Les gens étaient très cool, mais aussi très très bons dans ce qu'ils faisaient. Mmh. Donc il y avait un côté, je dirais, super athlète, mais aussi super route. Donc il y avait, pour moi, c'était un bon mix entre les deux. De ouais, on est là pour faire du vélo, pour voir des beaux paysages. Mais aussi pour se donner un peu et puis pour avoir une expérience aussi physique. Donc il y avait ce côté-là qui était intéressant. Et après, ce qui en est du développement du trail et tout, je trouve que maintenant ce qui est bien, c'est qu'on peut tous en trouver un peu pour son compte, enfin ce qu'on veut quoi. Moi je peux aller courir même si j'en vis de la course à pied, quand je vais courir le matin, je vais juste courir le matin quoi. C'est une sortie, moi tout seul dans les bois, je vais courir en montagne comme je faisais il y a 20 ans quoi. Mmh. Et donc c'est ça qui est pas mal, c'est que en fait et pour revenir un petit peu à ce qu'on disait avant avec les réseaux sociaux tout ça, c'est que on peut se mettre dedans à fond ou pas. Et où on peut trouver un équilibre entre les deux. Et pour moi, c'est un peu ce que j'essaye de faire maintenant. C'est j'aime bien les compétitions, j'aime bien les événements, j'aime bien tout ça, mais c'est pas tout. Et donc d'avoir un équilibre, pouvoir faire des expéditions un peu plus longues et faire autre chose pour être en montagne. Je trouve c'est complémentaire et ça permet d'avoir d'avoir une approche plus équilibrée du truc.
Et ça t'a pas branché depuis, parce que t'as fait le Colorado Trail, mais t'as aussi traversé les États-Unis. Et ça t'a pas intéressé depuis de participer à des événements plus compétitifs, on dirait, pour voir ce que tu peux valoir, ou c'est vraiment un petit peu une soupape par rapport au trail?
Non, ben j'ai fait le Colorado Trail, donc je l'ai fait. C'est une compétition. Enfin, c'est un peu différent. C'est comme un off ou un FKT dans le monde de l'ultra. Donc c'est un événement qui est pas sanctionné, mais où tout le monde est se rejoint à la même heure le même matin et on part et on fait en fait. C'est une course contre la montre ou contre soi-même, mais il y a d'autres participants. Et donc à la fin, on a un petit classement, tout ça. Donc moi j'avais fait ça pour la Colorado Trail. C'était un peu, il y avait ce côté, je venais de passer 15 ans à faire de la course à pied et des courses et des compètes comme ça, donc je connaissais un peu ce monde. Donc pour moi de m'aligner au départ d'une course pour découvrir le sentier finalement, c'était assez normal, enfin dans l'approche que j'avais, j'étais habitué à avoir ce genre de paramètres. Et donc la l'année d'après, j'ai fait l'Arizona Trail dans le même format, donc une course non sanctionnée comme ça. Cette course-là, elle est plus longue. Tu traverses tout l'état de l'Arizona avec une traversée du Grand Canyon avec le vélo sur le dos, qui est assez extraordinaire. Et donc ça, c'était les deux courses, je dirais, officielles que j'ai fait. Et j'ai adoré. J'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à le faire. J'ai beaucoup appris. C'était vraiment vraiment bien. Mais en même temps, c'est, je sais pas, la course, c'est pas le seul environnement où on peut apprendre quelque chose sur soi, où on peut se pousser, où on peut aller rechercher ses limites et être tout seul dans les bois avec son vélo. C'est une expérience qui est aussi assez intéressante et que j'aime beaucoup. Ou alors faire des sorties plus relax en bikepacking, qui est pas forcément juste pour aller faire les courses, mais faire des sorties avec mes amis, aller camper, tout ça, ça c'est aussi un peu l'essence du truc. Donc j'essaye de trouver un équilibre avec tout ça, de donner dans des efforts plus poussés à certaines périodes de l'année, et puis d'avoir d'autres périodes où c'est plus juste pour le fun, quoi.
Et comment s'est passée ta transition? Enfin, ouais, on l'a dit tout à l'heure, on y reviendra après. T'as traversé les États-Unis, donc c'est ça te donnait quand même une petite base de bon cycliste. Mais quelle différence t'as noté entre toutes les épreuves que tu as pu faire à pied et passer 18, 20 heures, 22 heures sur ton vélo par jour? Qu'est-ce qui est le plus dur entre les deux, si on peut donner un ordre de difficulté?
Ben, je dirais que y a l'assistance mécanique sur le vélo. Donc, en descente, tu es en roue libre. C'est un peu gratuit, la descente en vélo. Mmh. Tandis que, bon, il y a forcément un côté physique, hein, et surtout avec les vélos sur lesquels je roule, moi, c'est tout en rigide, donc il y a le choc, c'est moi qui l'absorbe, donc c'est pas forcément hyper, j'irais bien pour le corps, mais il y a la différence, c'est quand même au niveau de l'impact. La course à pied, c'est beaucoup plus dur sur le corps, et cet impact accumulé, surtout sur des longues distances, et c'est là que c'est intéressant. Sur le bikepacking, c'est que tu peux faire 800 km en vélo dans les montagnes et d'arriver à la fin, bon, fatigué forcément, mais pas cassé en deux. Et faire 800 km à pied, je l'ai fait. Et honnêtement, la récup était plus dure. J'étais plus entamé physiquement après la version à pied que la version à vélo. Donc, je pense que ça, c'est une des principales différences entre les deux, c'est que sur le vélo, je trouve que je peux vraiment donner une limite un peu plus élevée, tandis que en course, il faut aussi gérer le corps qui commence à se dégrader au fil des jours. Ça se passe aussi en vélo, mais c'est plus lent. Et même pareil au niveau digestif. Sur le vélo, je peux manger une pizza dans la montée. En courant, c'est le ventre est un peu plus sensible. Donc, j'ai beaucoup moins de soucis gastriques, beaucoup moins de soucis, je dirais, physiques, sur le vélo, avec des distances et des efforts même que je dirais qui sont plus importants qu'en course. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien avec le vélo, et ça permet de faire plus avec moins d'impact.
Quand tu as eu fait toutes ces expériences à vélo, est-ce que tu as senti un bienfait sur ton niveau de performance à pied?
Oui et non. Là, je roule sur un VTT qui a une seule vitesse et qui est tout rigide, ouais. Et donc c'est un vélo qui est super fun mais super physique. Ouais. Donc la montée, c'est soit tu marches soit tu pédales, et il n'y a pas d'entre deux, c'est jamais très soft dans l'approche. Par contre, quand mon corps s'adapte, bah il y a un côté performance qui est quand même assez important au niveau cardio, mais aussi au niveau des quadriceps, tout ça, enfin du renforcement musculaire. C'est pas complètement spécifique à la course à pied, mais je trouve que quand je fais beaucoup de vélo l'été, je sens que je suis plus j'ai plus de renforcement musculaire d'ensemble, je suis plus athlétique que quand je fais que de la course, parce que il y a aussi un engagement au niveau des abdominaux et des bras qui est assez important aussi, donc il y a plus un travail d'ensemble, je trouve, qui est bénéfique. Il y a aussi un côté perspective dans, par exemple, dans la descente. En vélo, on va beaucoup plus vite et les conséquences d'une chute sont beaucoup plus importantes aussi. Donc le focus est vraiment élevé et aussi les réactions très rapides. L'anticipation sur les sentiers. Ouais. Donc ça aide pas mal aussi pour la descente après en course, parce que tout est au ralenti en comparaison. Et je trouve que moi, ça m'a, j'aime beaucoup la descente en général, mais là, ça m'a fait, j'irais progresser en perspective, plus que juste du côté musculaire, parce que là, il n'y a pas vraiment de traduction. Enfin, la course, faut travailler les descentes parce qu'il y a les impacts et le vélo, ça, c'est comme le ski d'ailleurs, ça travaille pas du tout cet aspect-là, mais ça travaille le côté un peu plus mental et psychologique, donc ça aide beaucoup.
Le côté perspective, c'est un petit peu comme si tu changeais d'échelle en fait. C'est comme un peu faire de la survitesse en descente à pied, puis quand tu passes à une vitesse plus modérée, tu dis bon bah finalement ouais c'est pas si mal quoi. Donc, un petit peu côté survitesse en fait.
Mm-hmm. Il y a aussi un côté, je dirais observation. Il y a t'as l'impression que parce que tu vas plus vite que tu vois moins de choses, mais en fait il y a plus de fluidité en fait dans la perspective et j'essaye de prendre plus d'informations en compte, mais de manière plus rapide. Et pour faire ça bien, faut moins réfléchir. Parce que la réflexion, en fait, elle est pas assez rapide, c'est trop lent. Et donc, c'est beaucoup plus au feeling que ça se passe. Parce que c'est ça qu'on ressent. D'abord, on ressent, on a ce côté instinct qui se développe et qu'on doit utiliser en fait pour vraiment bien descendre et quand on y réfléchit trop, et ben c'est là qu'on fait des erreurs. Donc ce côté, nous on dit disconnect the brain,
on unplug, t'inquiète,
on débranche la tête et en fait tout se passe mieux. Ouais. et donc ça c'est quelque chose qui est c'est important de le travailler, je trouve. Et il y a plein de manières de travailler ça et le vélo et la descente comme ça. Moi, ça me fait travailler beaucoup ça et ça aide au niveau de la course.
Alors, ça me fait marrer parce que cet après-midi, j'ai fait un épisode avec une jeune fille qui habite au pied du Ventoux, donc dans le Vaucluse. Et elle réfléchit énormément, en fait. Elle gamberge, son cerveau tourne 24-24. Et je lui ai suggéré de lire un livre qui s'appelle Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Et c'est exactement ce que ça raconte, en fait. La capacité de l'archer japonais qui maîtrise vraiment son truc à se détacher de ce qu'il fait pour simplement le faire et arrêter d'essayer de le faire, mais de laisser le truc se faire de manière naturelle, instinctive, et de pas essayer de tirer, mais de... je sais même pas bien l'expliquer en fait, parce que je suis ni japonais ni archer et encore moins zen, donc je serais bien mal engagé pour vraiment l'expliquer. Mais c'est c'est une super expérience en tout cas de pouvoir complètement lâcher prise finalement, puis laisser l'instinct. Mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même un certain niveau de préparation et une maîtrise technique pour pouvoir lâcher un peu les gaz comme ça.
Ouais, et ça, tout se passe dans la pratique, donc c'est la répétition, et c'est pour ça que c'est assez subtil, d'essayer d'identifier l'expérience, exactement ce que c'est assez dur de décrire ça avec les mots, un peu parce que la réflexion, justement, elle est trop lente pour réagir dans le moment, pour vraiment nous servir quand on est en vélo. Et la réflexion est aussi trop lente quand on l'a fait après, pour vraiment donner une explication qui est assez riche, quoi. C'est comme essayer d'expliquer l'eau, parce que c'est l'eau, et en fait, tu la bois, tu t'immerses dedans. Enfin, c'est très difficile à expliquer, mais c'est ça qui est assez fascinant. C'est de, pour moi, enfin, c'est une sorte de, je dirais de sensation, optimale. Et donc c'est dans toutes les activités que je fais, je suis un peu à la recherche de la manière dont on crée cette sensation, dont on crée ce feeling, on dit flow en anglais, je sais pas comment on dit en français, mais c'est d'être dans la fluidité, quoi.
C'est la fluidité, d'avoir un rythme. C'est ça. Fluide, d'éviter les entre guillemets les à-coups, d'avoir quelque chose de fluide, parce que la fluidité amène l'économie et l'économie amène la performance, donc c'est ça qui est intéressant, plutôt que de toujours vouloir forcer les choses.
Un exemple pratique, c'est tu vois, quand tu descends en VTT avec un vélo rigide, il y a beaucoup de feedback du sentier et il y a beaucoup d'impact au niveau des mains et des avant-bras. Mais si tu serres le guidon de manière intense, tu crées une sorte de résistance, une tension. Ouais. Et en fait, ça crée plus de problèmes. Et donc, faut se relâcher. Mais bon, faut pas se relâcher trop non plus, parce qu'il faut quand même garder une tension et garder les mains sur le guidon. Donc il y a une sorte de, c'est assez subtil en fait la différence, c'est d'être relâché, mais aussi d'avoir la force de bien tenir le guidon et donc de laisser un peu le vélo bouger en dessous de nous, enfin qu'il y a une sorte de réponse en fait au sentier tendu, mais qui est plus relâché, et ça permet d'absorber les chocs et d'avoir une économie, une fluidité dans le mouvement qui est c'est que nous qui l'apprécions en fait dans le moment. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit de l'extérieur.
C'est pas facile à expliquer, hein.
C'est dur à expliquer.
Ouais. On peut, tu vois, j'ai pris quelques leçons de pilotage avec des potes et un me disait, mais faut pas serrer le guidon. Et maintenant, mon petit jeu dans les descentes qui tape un peu, c'est d'essayer, tu vois, de le tenir, de tenir mon guidon, mais de surtout pas le serrer. Et un autre m'a dit, tu laisses aller, le vélo trouvera surtout dans du sable, dans des trucs comme ça qui sont un peu fuyants. Tu laisses le vélo faire son chemin, et c'est un petit peu, au début, c'est un peu intimidant, parce que tu te dis, attends, si je tiens pas mon guidon fermement, le vélo il va partir en travers. Mais non, en fait.
Ouais, c'est ça.
La vitesse, le mouvement fait que on s'en sort toujours.
Ouais, et c'est là où justement la réflexion elle devient problématique, parce que on croit qu'on sait, et en fait si on se relâche et qu'on laisse faire, eh ben ça se passe mieux. et on a toujours un peu ce scénario de si je relâche un peu, je vais taper une pierre et puis ça va m'envoyer par-dessus le guidon ou je sais quoi. Donc on réfléchit trop et on laisse pas faire les choses, et c'est un peu mais c'est le jeu, hein. C'est ça qui est fascinant avec l'activité, c'est de vraiment de rentrer dans ces nuances et les moments où justement où tout clique et où vraiment ça se passe bien, et t'es là, c'est bon, j'ai senti là, tu vois. C'est quelque chose c'est aussi un plaisir vraiment personnel, intime, qu'on a, et pour moi c'est ça un peu, enfin, Quand je parle d'essence, de tout ça, c'est vraiment, il n'y a pas une validation extérieure. C'est une sensation qui est, unique à la personne qui est en train de l'avoir. Et si cette sensation, elle est forte, elle est vraiment bonne, bah, faut la poursuivre.
Et pourquoi ouais. Tu t'es mis au single speed?
Bah un peu, tu vois, dans ce côté, comme tu m'as dit, comme t'as dit au début, que j'ai un peu cette perspective minimaliste. C'est un peu dans cette esthétique-là d'avoir un vélo très simple, qui est de vraiment me perfectionner moi plutôt que de me comment
chercher des
d'avoir
artifices.
Le vélo pardon
chercher des artifices avec le dérailleur, les suspensions, tout ça.
Ouais, j'aime beaucoup aussi tout ça, mais c'est vrai que ça c'est des aides, et c'est pas forcément mauvais, hein, c'est juste que tu as une certaine expérience sur un single speed qui est très il y a pas de distraction, il y a pas de en fait quand je suis sur le sentier, je pense plus au rythme et quand est-ce que je vais mettre le coup de pédale plutôt que quand est-ce que je vais changer de vitesse. Donc ça change la perspective du terrain et du sentier, et de vraiment d'essayer de rouler avec, et plutôt que de dire ah mais j'ai pas la bonne vitesse pour ça, c'est de s'adapter et de dire ouais mais en fait si j'utilise le sentier de manière à être le plus économique possible dessus, bah j'ai il y a une aide naturelle, et j'aime bien ce côté épuré du vraiment c'est le vélo simple à l'état pur, quoi. et aussi en bikepacking, il y a un côté pratique, c'est que bah, il y a moins de choses à casser, donc il y a moins de problèmes techniques qui se passent, parce que bon moi j'ai cassé la suspension, j'ai eu des problèmes avec des dérailleurs, des trucs, enfin tout ça, et c'est pas que le single il peut pas avoir de problèmes, mais il y en a moins. Et donc t'as les pneus, t'as la chaîne, et puis c'est à peu près tout, quoi. et donc ça c'est un côté qui est quand même vraiment avantageux, surtout dans des endroits lointains ou où il n'y a pas beaucoup d'aide, et il faut vraiment que je sache réparer mon vélo moi-même et que je puisse le réparer moi-même. Je trouve que avoir moins de ouais ça permet d'avoir moins de problèmes.
J'aimerais bien revenir au trail un instant. Et t'as parlé de la rupture. Enfin, j'aimerais bien parler de la rupture entre. Je crois que c'est sur ton premier UTMB. La rupture entre les victoires de Marc Olmo et l'arrivée de Kylian Jornet. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a changé dans le monde du trail en matière de, en termes de notoriété, d'image du trail, de préparation? Qu'est-ce que ça a changé en fait, c'est l'arrivée de jeunes coureurs ultra performants par rapport à un Marco Olmo âgé, on peut le dire, peut-être.
Mais ultra performant aussi. Je dirais.
Oui, bien sûr.
Ouais, je dirais que c'est. Pour moi, la perspective, si tu veux, elle est. Je peux la voir maintenant en regardant en arrière, mais à l'époque. C'était juste l'âge Kylian avait 19 ans à l'époque, moi je crois que j'en avais 23 24, je sais plus exactement, mais bon on était pas très vieux, et il y avait pas dans l'ultra à l'époque, il y avait pas énormément de jeunes, je dirais de en dessous de 30 ans qui faisait l'ultra, ou donc il y avait un changement comme ça. Je me rappelle le premier ultra que j'ai fait, c'est le Waldo 100 km dans l'Oregon, et ça c'était en 2007, et j'avais je crois 22 ans ou 23 ans, et je me rappelle sur la liste il y avait un autre gars qui avait le même âge que moi, et après je crois que tout le reste avait plus de 30 ans. Et donc j'ai rencontré ce gars avec qui je suis toujours pote d'ailleurs, parce qu'on avait le même âge, et que à l'époque c'était moins commun d'avoir des jeunes qui faisaient l'ultra. Bon maintenant c'est il y a tout le monde de tous les âges qui s'y mettent, et ça je sais pas, enfin il y a plus d'énergie peut-être, il y a plus d'événements, il y a plus de gens qui ça se popularise tellement que ouais, c'est normal, je pense qu'il y a une plus grande brochette d'âge en fait de gens qui veulent faire de l'ultra, mais je sais pas, c'est quoi ta question exactement, je m'égare un peu sur la réponse.
la rupture en fait, qu'est-ce que ça a changé sur la notoriété du trail ou sur le niveau des performances entre un coureur assez âgé mais quand même comme tu l'as dit performant, il suffit de regarder son palmarès et son mode de vie en général, donc il y a aucun problème là-dessus, et puis l'arrivée de coureurs comme toi, comme d'autres beaucoup plus jeunes, et de voir une activité finalement dominée par des personnes plus âgées, très endurantes, et de voir arriver des jeunes peut-être plus tentés par la vitesse mais pourtant aller vers de l'ultra.
Il y avait certainement un style. Olmo, c'était pas le bon exemple parce qu'il avait un style quand même très minimaliste, mais il y avait quand même ce style, tu vois, plus ouais, comme tu dis, vitesse, course. Vraiment, on est sur des épreuves qui sont longues d'ultra et de considérer ça moins comme des expéditions et plus comme vraiment une course. Et donc cette année-là, Kylian avait, il a rien pris quoi. Il a juste pris le minimum du matériel obligatoire. Et il y avait un changement un peu d'image ou de perspective sur la distance et dire que on peut faire la course en montagne sur 160 bornes plutôt que juste sur des courses. De marathon ou en dessous. Donc il y a un petit changement à ce niveau-là. Je dirais l'autre changement, c'était en parallèle du développement de l'internet et vraiment de ça a énormément changé les choses au niveau de la popularité de la course, c'est de pouvoir faire des lives, d'avoir des Twitter, d'avoir des blogs. Au début c'était des blogs, mais d'avoir une vue, si tu veux, au-delà des magazines. Ouais. Il y en avait pas énormément. Il y avait Ultra Fondu en France, il y avait 2-3 autres magazines sur l'ultra, mais c'était pas super développé. Et là, d'un coup, tout le monde a le micro et tout le monde peut dire ce qu'il veut et peut montrer la course de la manière dont il veut. Donc il y a vraiment un développement, je dirais, parallèle avec les réseaux sociaux, l'internet, tout ça, qui ont fait que il y avait plus de visibilité sur la course qu'avant.
C'est un petit peu la même trajectoire sur l'ultra, les courses ultra gravel aux États-Unis finalement, parce que là je me suis pas mal documenté pour reprendre un petit peu l'histoire de la Trans-Iowa. Et finalement, ouais, ça a été créé en 2004-2005, au moment où justement on avait cette, c'était encore une fois pré-Facebook et pré-smartphone, enfin pré-réseaux sociaux tels qu'on les connaît maintenant. Ils existaient avant déjà, mais tels qu'on les connaît maintenant. Et ça a été vraiment, tu vois, ce que les gens attendaient à ce moment-là et la manière de pouvoir le communiquer. Jusque-là, c'était des flyers un peu quasiment du porte-à-porte. Mais, mais du jour au lendemain, ils pouvaient mettre un message sur un forum. On organise telle course dans l'Iowa, 300 miles. Et ça a été plein en 2 jours quasiment. Et ça a duré comme ça pendant 15 ans. Et c'était peut-être quasiment le bon truc au bon moment que les gens attendaient finalement. Ce qui est le cas pour la plupart des ruptures d'ailleurs. Comme Facebook aussi d'ailleurs, c'est ce que les gens attendaient à ce moment-là. Si ça se passait aujourd'hui, peut-être que ça ne fonctionnerait pas. Mais peut-être que c'était le bon truc, le bon truc au bon moment.
Ouais, je pense qu'il y a de ça. Et puis aussi je pense que c'est pour ça qu'il y a une sorte de clash un peu maintenant avec les événements qui deviennent de plus en plus grand et de plus en plus commercialisé et tout ça, parce que c'est loin en fait de cette image qu'on avait de la petite course en montagne ou de la course gravel, ou je pense même à une course comme la Hard Rock ici, où c'est toujours 100, 150 coureurs qui font la course. C'est une course de nom qui est aussi connue que l'UTMB. Mais les courses de l'UTMB, c'est 10 000 coureurs. Donc forcément, rien que par l'envergure de l'événement, ça change complètement la dynamique et l'expérience que les gens ont. Si tu fais une montée et que t'as 100 coureurs devant et 100 coureurs derrière, ou si t'es en train de faire une montée à 2 heures du matin dans les montagnes de la Hard Rock, où t'as personne, où tu vas peut-être voir des cerfs ou des choses comme ça, c'est une expérience qui est très très différente. Mais en même temps, on est dans un monde où l'Hard Rock, il y a des demandes et des des demandes de la société ou des coureurs de vouloir, on veut avoir cette expérience, on veut que cette expérience elle soit plus facile à avoir, enfin qu'on puisse s'inscrire. On peut pas avoir 150 coureurs tous les ans, faut avoir plus de coureurs, tout ça. Mais en même temps, enfin, tu peux pas avoir cette expérience avec plus de gens. Ça change complètement la dynamique de l'événement. Donc, je vois sur les grandes courses comme ça, c'est devenu quelque chose de pas forcément de mal. Hein. Il y a 10 000 personnes qui sont là pour courir. C'est quand même assez extraordinaire. Mais c'est quelque chose de très différent de l'origine un peu, tu vois, de l'ultra ou de ces aventures. Et je pense que ça revient un petit peu à ce que tu disais entre Marc Olmo et Kylian et ce changement. C'est que c'est un peu le départ du côté roots. Et on rentre dans une ère plus professionnalisée, plus commerciale, tout ça. Pas forcément les acteurs qui en font partie, mais juste l'ensemble de la société avance dans cette direction.
Pourquoi je suppose que les organisateurs de la Hard Rock 100, c'est une décision consciente de limiter à 150 coureurs. Est-ce que tu connais les raisons de cette décision? Pourquoi limiter, ne pas céder aux sirènes justement des méga sponsors et d'en faire un monstre?
Alors il y a des autorisations au niveau des parcs, enfin des forêts, tout ça. Donc il y a des limitations, des limites qui sont là fixées. Après c'est pas, donc il y a des, je dirais l'environnement c'est peut-être le plus grand, la plus grosse considération pour garder la course à 150 coureurs, parce que c'est dur de se garer, c'est beaucoup de pression sur les petits, des écosystèmes assez fragiles. Après, il y a le côté, feeling, il y a le côté c'est une petite communauté où l'organisateur de la course, à la fin, il peut dire un mot sur chaque coureur qui a fini, il y a ce côté intime qui fait partie de l'histoire de la course. De ça, tous les ans, le dimanche après la course, tout le monde va faire un petit déjeuner ensemble à la remise des prix, et c'est Dale, le directeur de la course, dit son petit mot personnel à chaque coureur et tout. Et donc c'est quelque chose que, c'est ce genre de choses qui fait que l'événement est unique, en fait. Et si t'as plus ces choses-là, parce que c'est plus possible, parce qu'il y a 500 personnes qui font, ou 1000 personnes ou plus, c'est plus vraiment ce que c'est la Hard Rock. C'est un autre événement qui a évolué. Et je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis pas que c'est une direction, je suis pas pour ou contre, mais je pense qu'il y a un peu de cette volonté de garder l'événement, enfin de vraiment d'une expérience unique et qui est c'est la Hard Rock, c'est pas l'UTMB. Et je crois qu'il y a ça dans l'esprit des organisateurs.
Qu'est-ce que ça a changé justement le développement de l'UTMB, des des courses d'ultra, tout ça, d'un point de vue matériel, hein, sur le matériel que les coureurs emportent avec eux, quelles conséquences ça a ? C'est plus, c'est moins qu'avant ? Ou c'est un peu entre les deux ?
Bah, c'est plus parce qu'il y a énormément de matériel obligatoire. Ici, les courses aux États-Unis, il n'y a pas de matériel obligatoire, mais l'UTMB a une liste conséquente de matériel obligatoire. Donc il y a des choses intéressantes avec ça, c'est qu'il y a des développements de produits qui se font pour être plus spécifiques à l'événement, plus légers, tout ça. Et je pense qu'il y a des, enfin moi je sais que par exemple avoir un caouet et un pantalon étanche, c'est pas quelque chose que je portais toujours avec moi en montagne. Mais maintenant, ils sont tellement légers, ils sont tellement petits, et c'est tellement pratique d'avoir ça dans le sac, que bah là en fait le développement du sport a fait que ces produits-là ont été produits, enfin de manière enfin ils ont été améliorés. Donc ça c'est je pense un côté qui est assez positif. Après il y a toujours le côté hyper commercial aussi, hein, et d'avoir toujours d'autres matériels qui est pas forcément nécessaire, enfin de tout ça qui est un peu plus, enfin après ça c'est un peu plus compliqué. Mais moi je pense que dans l'ensemble ça a quand même fait progresser l'activité, et ça a quand même beaucoup apporté au niveau de la qualité de l'expérience, et que ouais ça c'est un côté je pense qui est quand même hyper positif.
Est-ce que tu pourrais être performant ? Est-ce que tu pourrais arriver, toi ou d'autres coureurs, au même niveau de notoriété en ne faisant pas ces courses-là, justement, comme on l'a vu récemment, Kylian Jornet ou Xavier Thévenard décident de ne plus prendre l'avion ou de faire vraiment du local ou de l'ultra-local ? Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui d'avoir la même notoriété, d'avoir la même capacité à vivre de son sport, d'être pro, en ne faisant pas ses courses à travers le monde ? Donc en essayant d'avoir un bilan carbone plus modeste, finalement ? Ou est-ce que c'est plus à mi-chemin entre les convictions et le storytelling ?
Ouais, je pense que c'est un moment assez... c'est à mi-chemin là en ce moment, je pense, où il y a ça dépend un peu de parce que Kylian ou Xavier ils ont construit en fait leur notoriété par le biais des courses et des compètes et tout ça. Donc après il y a plus de liberté une fois que ils ont ce statut en fait de pouvoir faire des projets différents et tout ça. De partir, je dirais, de se construire toute cette image, toute cette notoriété, en restant uniquement, enfin, dans chez soi. Je pense que c'est possible, mais vraiment, faut être assez créatif, faut vraiment, parce que c'est une sorte de, tu dois tout créer toi-même. Tu vois, dans cette situation-là, et donc il y a, ça demande quand même beaucoup de talent en fait, pas que au niveau athlétique, mais après il faut pouvoir vendre une histoire, enfin ou créer quelque chose que les gens vont être intéressés. Donc il y a tous les réseaux sociaux, il y a tout ça, donc il y a les opportunités maintenant qu'on n'avait pas avant en fait. Et avant il y avait vraiment c'était par le biais de la course que qu'on se créait ces opportunités. Et maintenant, même avec, je dirais, l'évolution peut-être de au niveau de la dernière année avec la pandémie, la manière dont les gens pensent, enfin je sais que moi là ça fait un an et demi que j'ai pas pris l'avion, c'est quand même très différent de ce que je faisais avant, d'il y a deux ans où je voyageais beaucoup. Et c'était à l'époque, c'était si j'ai un voyage par exemple en Thaïlande pour aller faire des cliniques et tout ça de coureurs, des présentations le soir, faire des courses, machin. Bah, ça, c'est une opportunité qui est quand même extraordinaire et qui permet de connecter avec les gens là-bas et de développer le sport, en fait, en tant qu'ambassadeur. Maintenant, le fait de se focaliser sur là où je vis, c'est vraiment de revenir un peu plus aux valeurs et d'avoir la plateforme de pouvoir véhiculer ça sans pour autant avoir besoin nécessairement de prendre l'avion. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même plus aligné, je dirais, avec ma vision du trail et ma vision de comment je vis ma vie sans. J'adore avoir ces opportunités, j'en suis très reconnaissant, mais c'est aussi ça permet aussi d'allier un peu plus mes valeurs personnelles avec mes devoirs professionnels.
Ouais, j'étais en train de réfléchir à la question que j'allais te poser, du coup tu y as répondu sur les deux derniers mots. C'est une sorte de compromis finalement. Ça te plaît pas forcément d'aller en Thaïlande, à part pour la nourriture et le plaisir du dépaysement.
Et les taxis, si, ça me plaît.
Et les taxis roses.
Oui, bien sûr. Non, ça me plaît beaucoup d'y aller, mais c'est pour moi, si tu veux. Il y a le côté au niveau de l'environnement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, ce que je fais en Thaïlande, je pense que ça, si c'était juste pour aller faire une course. Je viens, je reste une semaine, je gagne la course, je gagne pas la course, je rentre chez moi. Bon, c'est juste pour moi, en fait. Par contre, si je voyage pour faire des cliniques de coureurs ou d'autres choses, en fait, qui sont plus dans le côté rôle d'ambassadeur, je trouve que là, il y a une plus-value. Mais en même temps, donc au niveau des courses, des projets, tout ça, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui est chez moi, enfin de développer plus les sentiers autour de chez moi et de pouvoir. Moi j'adore le Colorado, j'adore où je vis et c'est pas que je veux pas voyager et plus faire ça, mais c'est de trouver un équilibre qui est plus qui est plus en harmonie avec mes valeurs et ça c'est quand même d'être plus proche de chez moi.
Et ça te plaît ce côté pédagogue finalement, d'amener les gens à courir, de leur expliquer comment mieux courir, comment vraiment s'éclater dans cette activité, ça te plaît vraiment ça?
Bah, je prends beaucoup de plaisir à courir et c'est une activité qui m'a apporté énormément. Et donc moi, j'aime bien quand les gens sont intéressés, que les gens sont motivés, que les gens ont envie de courir ou de faire du vélo ou quoi que ce soit. Hein. Si je peux partager un peu de ce que j'ai appris pendant ces 15-20 dernières années, ouais, c'est quelque chose que j'aime faire et que parce que ça me fait plaisir en fait que les gens ils trouvent quelque chose qu'ils aiment et que je sais que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, donc peut-être que ça peut aider les autres aussi.
Qu'est-ce qui t'a pris de faire le Colorado Trail? Pas de transition hein, là. Qu'est-ce qui t'a pris de faire le Colorado Trail en gravel? Pourquoi cette idée?
Écoute, c'était assez marrant parce que la semaine d'avant le départ de la Colorado Trail, donc c'était comme j'ai expliqué, c'est la course non sanctionnée. Donc c'était la semaine avant une compagnie de vélo qui s'appelle Reeb, qui est il fabrique des vélos à Fort Collins, qui est juste à côté de, enfin Longmont, excuse-moi, juste à côté de Boulder. Donc c'est fabrication fait main, tout ça. J'ai eu beaucoup de chance. Ils m'ont donné un vélo et ils m'avaient donné un vélo plus dans l'optique Tour Divide, donc plus gravel. Ouais. Et parce que moi je leur avais dit moi, je suis intéressé de faire du vélo, en fait, en complément de la course, et je vais faire un vélo qui fait un peu de tout, quoi. Avec des, donc un vélo de gravel avec des pneus de VTT, mais avec des barres, enfin des guidons en drop et tout ça. Et donc j'avais ce vélo, et la semaine d'après c'était la Colorado Trail, et je me dis tiens, ce serait quand même pas mal de se faire la Colorado Trail. Et puis bah c'est le vélo que j'ai, quoi. Et le vélo que j'ai, bah c'est un vélo de gravel. Et donc je me pointe à 4h du mat au départ à Durango. Et puis bah tout le monde forcément ils sont sur des vrais vélos, quoi. pour le parce que c'est quand même un sentier, c'est comme un sentier de VTT, hein.
Ouais.
Et donc moi j'avais jamais fait de VTT avant. C'était ma première fois que je faisais du VTT. Donc ça commence avec une montée de 2000 mètres et c'était dans le noir. J'avais jamais fait de VTT de nuit. J'avais fait plein de vélos avant, mais jamais.
Le jour.
Ouais, le jour et puis, ou de nuit, mais pas sur des sentiers, en fait. Et c'est là dans la première montée où je me suis dit bah ah, c'est pas mal, c'est un peu comme, enfin c'est comme la course, quoi. C'est on est dedans, tout le monde avance, on essaye de trouver, enfin son placement un petit peu dans la montée, parce que bah t'en as qui marchent, t'en as qui essayent de passer tous les petits obstacles. Donc c'est un peu le, ça c'était un peu différent pour moi d'apprendre un peu les, la manière dont se font les courses de vélo. Et on arrive en fait en haut de la première montée, et là c'est une grande descente de 1000 mètres de l'autre côté, et là je me mets dans les drops et je descends, je fais ah ouais, c'est pour ça que les gens aiment le VTT. c'est quand même bien cool. Et bon après j'ai vraiment adoré, j'étais dans un autre monde en fait pendant toute cette épreuve, mais physiquement j'ai pris très cher quand même, hein. J'étais les mains, les avant-bras, les chocs en fait au niveau de, parce que j'avais pas la fluidité dont on parlait avant. J'étais plus là, faut que je m'accroche à la bécane pour arriver en bas dessus, quoi. Et donc j'avais pas d'expérience, mais ça m'a servi d'expérience accélérée. En 5 jours, j'ai eu un bon. j'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas beaucoup dormi. Je fais 20h, 22h de vélo par jour, et je suis arrivé au bout explosé, mais aussi. j'étais là, mais le bikepacking c'est génial, quoi. Ça, il faut que j'en fasse plus. Donc j'étais tout de suite pris au jeu, quoi.
C'était quoi la course que t'avais, la course à pied que t'avais un mois après, l'ultra à pied que tu avais après?
Je crois que c'était l'UTMB, hein.
Et ça s'est pas très bien passé, je crois.
Non, parce qu'en fait j'avais des problèmes aux nerfs, un peu aux nerfs dans mes pieds, parce que j'avais jamais passé autant de temps dans des chaussures de vélo, et donc j'ai un peu de soucis avec mes nerfs dans les pieds, dans les mains, et puis bah une fatigue générale que je sais pas trop à quoi je m'attendais, en fait. J'ai regardé un peu ce que les gars faisaient devant, ce qu'ils prenaient comme matériel, et en gros c'était rien. Donc je me suis dit bon bah c'est assez simple, comme ça on prend rien et on va faire du vélo, quoi. Et donc je suis un peu parti dans le même esprit que je faisais les courses en ultra, donc léger et sans prendre grand chose. Par contre j'ai payé, je suis arrivé au bout bien entamé quand même, et donc la récup, en fait je pensais pas que l'effort elle était aussi difficile. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais je savais pas que ça allait être aussi dur. Et après en fait les années qui ont suivi, et maintenant j'ai beaucoup appris à mieux gérer, à être un peu moins agressif dans la manière dont je roulais sur le vélo, pour me proposer dans les endroits où on peut, et puis de pousser un peu plus dans d'autres endroits, des choses comme ça. Enfin Je dirais que le plus dur, c'était d'apprendre un peu le rythme. Et le rythme est un peu différent sur le vélo que en course.
C'est-à-dire
d'avoir cette mise en forme. Bah, d'avoir cette, en fait, il y a une chose qu'on fait sur l'ultra, c'est se projeter, vers le, donc par exemple, sur une course comme l'UTMB, faire le tour du Mont Blanc, c'est d'arriver à calquer l'effort avec la projection relative de la durée en fait que ça va prendre. Donc par exemple là sur un UTMB on dit bon ça en gros ça va prendre un jour. Voilà. C'est en gros c'est 24 heures quoi. Un peu plus un peu moins en fonction de si ça va bien ou pas. Mais c'est ça, c'est un jour. Et là sur une course comme la Colorado Trail, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais je regarde le record, il est sur 4 jours, il fait ça en 4 jours, et le dernier fait ça sur cette course, je dirais 10, 11 jours, un truc comme ça. Donc c'est quelque chose entre 4 et 11 jours. Et ça, c'est un peu dur à gérer en fait l'effort et de comprendre, ouais, est-ce que je peux pousser un peu plus là, est-ce que je devrais me reposer, donc de gérer un effort conséquent sur une période plus longue. Et ça c'était un quelque chose d'un peu nouveau pour moi, et surtout que c'est sur un vélo, donc comme j'expliquais avant au niveau de l'impact, il y a moins d'impact, mais bon, ça veut dire qu'on peut aussi en faire plus longtemps. Donc si je fais 22 heures de vélo, je fais peut-être 18 heures de course, et donc j'ai moins de repos en fait sur le vélo. Et peut-être plus en course, et donc comprendre ce que le corps a besoin pour fonctionner de manière optimale sur la distance, et vraiment d'arriver à gérer la distance bien, ça prend plus d'expérience, et donc ça je continue d'apprendre sur ça.
Tu veux dire que même sur une épreuve comme le Tour des Géants qui se fait sur 3 jours, peut-être.
Mm-hmm. Ouais.
Tu veux dire que ça s'appréhende différemment, c'est de rouler le Colorado Trail ou autre sur plusieurs jours, c'est vraiment une expérience plus difficile.
Il y a beaucoup de parallèles, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, et il y a aussi beaucoup d'expériences qui m'ont servi, par exemple sur un Tour des Géants, pour pouvoir ensuite aller faire le Colorado Trail, ça c'est certain. Pousser le vélo à 2h du matin en pleine nuit, ouais, c'est pas bien différent que d'être sur les bâtons en train de tirer 2 jours dans le Tour des Géants. Enfin, c'est un peu le, il y a des similitudes, c'est sûr, mais c'est différent parce que tu dois gérer en fait différents problèmes. Par exemple, sur le Tour, les pieds, l'impact de la descente, les descentes sont très très longues, et donc l'impact de la descente est assez conséquent, et les pieds, c'est dur de gérer les pieds sur une période longue comme ça, surtout s'il y a beaucoup de météo, que les pieds sont mouillés tout le temps, tout ça, c'est un peu plus dur, et au niveau gastrique aussi, avec la fatigue, c'est plus dur de manger. Et vu qu'on court, bah ça active plus l'estomac et tout ça, donc c'est un peu plus dur de manger. Et donc tout ça, il y a pas, pour moi, il y a pas sur le vélo. Mes pieds, bon, j'avais des problèmes aux nerfs, mais c'est pas quelque chose qui me fait mal pendant le moment, quoi. C'est plus dans la durée. Et donc en fait, t'as différents c'est différents challenges dans les deux, c'est différents impacts sur le corps, et comme je disais avant, avec je peux faire 22 heures de vélo, mais 22 heures de vélo, c'est quand même 22 heures de vélo, quoi.
Là, puis tu recommences le lendemain, surtout parce que tu fais un UTMB en 26 heures, mais le lendemain c'est repos, alors que tu fais 22 heures de vélo, mais le lendemain tu repars, enfin le lendemain 2-3 heures après tu repars.
Voilà, et le Tour, c'est un peu pareil, où il y a ce, tu te reposes quand tu veux en fait. Donc t'as pas d'arrêt obligatoire, Et moi, j'aime bien ce concept parce que je préfère pouvoir être, se caler en fait sur son rythme personnel, ouais. Et dire là, tiens, j'ai envie de dormir 2 heures. Ma stratégie pour dormir, c'est ça. Enfin, moi, je sais que je fonctionne mieux. Par exemple, si la première nuit sur la Colorado Trail, je dors 4 heures. T'en as qui dorment pas la première nuit ou qui dorment qu'une heure ou quelque chose comme ça. Moi, je sais que 4 heures, c'est un peu plus long que pas mal de gens dorment sur cette épreuve. Mais ça me permet de bien m'ajuster, en fait, dès le premier jour. Donc, de donner au corps, en fait, je reste sur mon cycle normal, même si je dors moins. Vers minuit, je vais être fatigué, c'est sûr. Et donc je me mets sur le bord du sentier, je dors 4 heures, je me remets sur le vélo et je repars. Et en fait, ça me permet d'avoir un break et quelque chose que j'anticipe, que j'ai envie. Ok, j'ai un petit but, un petit objectif. Je vais rouler jusqu'à minuit et à minuit, je dors. Et trouver en fait toutes ces petites astuces. Et de savoir, en fait, bien connaître son corps, bien connaître ses qualités, et aussi où, par exemple, si moi je dors moins, ça va être difficile sur une épreuve de 4-5 jours. Sur une épreuve comme le Thor, c'est aussi, tu vois, ça se gagne en 3 jours. Et puis je crois que le vainqueur souvent dort 2 heures sur 3 jours. C'est rien. Et ça, c'est trouver vraiment là où on arrive à optimiser en fait sa performance sur l'ensemble de l'épreuve. Et ça, ça veut pas forcément dire faire comme l'autre personne, dormir que moins ou tout ça. Et donc ça, c'est ce que je voulais dire en fait des différences, c'est de trouver le rythme de la course. C'est la meilleure manière dont je peux l'expliquer.
On revient un petit peu à la notion de flow dont tu parlais tout à l'heure, finalement. De trouver quelque chose, un enchaînement fluide et dans lequel tu te sens bien.
Ouais, parce que finalement, la performance optimale, ce sera pas de gagner ou de battre une autre personne. Ce sera d'arriver à d'avoir la meilleure expérience et la meilleure performance personnelle possible. Et je pense que quand on a une vue d'ensemble comme ça, on arrive à maximiser en fait son expérience et notre performance personnelle. Et donc comme ça, quand tu arrives au bout, bah si tu as gagné la course, super. Mais si t'as pas gagné, tu sais que vraiment t'as maximisé, tu l'as senti pendant toute la course, que t'as donné au mieux. Et t'as pas fait d'erreur, t'as bien écouté ton corps, tout ça. Et donc c'est ça que j'essaye de faire, et d'avoir tes différentes expériences sur le vélo, ça aide aussi en ultra et vice versa, parce que ça permet d'avoir différentes perspectives et d'expériences pour puiser puiser dans l'expérience et dire ok, peut-être que là je me sens pas très bien, mais tu te rappelles l'autre fois là à 4 jours quand on était sur la Colorado Trail, là ça va un petit peu mieux en fait. Donc c'est j'utilise un peu les expériences passées pour informer le présent.
Quand tu dis une des différences entre le trail et le bikepacking, c'est de pouvoir amener ce dont le corps a besoin et de comprendre ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux sur 4 jours, 5 jours. Ça veut dire que sur un trail, tu as des ravitaux déjà prévus, tu as éventuellement un assistant, donc tu sais à peu près ce que tu vas manger en termes d'apport, de goût, de micronutriments, etc. Mais en bikepacking, le souci, c'est que c'est ce qui s'est après passé sur ton projet 14ers. Tu manges ce que tu trouves.
Ouais, voilà, t'es à la station service et puis c'est burrito, c'est Snickers, Coca, Pringles, machin, enfin c'est ce que tu trouves quoi. Et c'est pas la diététique au top, mais c'est à manger quoi. Et quand il est 2 heures du mat et qu'il y a, une station service qui est ouverte 24/24, bah t'es content qu'elle soit ouverte.
Et t'es content qu'il y ait que des sneakers à manger.
Voilà, et puis je dirais que ça aide aussi au niveau mental, c'est d'avoir cette flexibilité, dire que pour performer de manière optimale, il faut que j'ai mes petites barres, ma paire de chaussettes spécifique, machin, tout ça. Bien sûr, toutes ces choses-là, j'y pense, et ça a un impact. Mais il y a aussi, important de pouvoir s'adapter, d'être flexible. La vision que j'ai optimale, c'est de pouvoir aller, dans un autre pays, faire une course, et puis tu manges ce qu'ils ont au ravito. Et voilà quoi, tu fais ta course sans avoir vraiment besoin d'avoir quelque chose d'hyper spécifique. Et le backpacking, ça t'enseigne ça, parce que c'est d'être flexible, de pouvoir s'adapter. Enfin, c'est la meilleure manière de voyager à vélo, parce que il y a toujours des choses qui vont se passer dont on savait pas que ça allait se passer. Un pneu qui crève, on a pas de moi j'ai par exemple j'ai appris à coudre des pneus, à mettre de la super glue dessus pour les réparer, des choses comme ça qu'on improvise dans le moment. Et ça ensuite ça aide, je pense, à avoir une approche un peu plus flexible, plus malléable, dans un contexte comme un tort où c'est plus, il y a toutes ces aides qu'on peut avoir recours à toutes ces aides, mais au final, si t'es assez serein, tout seul, toutes ces aides, c'est vraiment des plus, et c'est vraiment des bonus plutôt que d'en dépendre absolument pour pouvoir performer.
Et du coup, sur cet UTMB, ça a donné quoi avec les nerfs, avec la fatigue générale du Colorado Trail? Ça a donné quoi?
Je me rappelle même plus. J'ai fait le tour, ça je sais.
Ouais.
J'ai fait le tour. Voilà.
T'as couru à la montagne, quoi.
Ouais, tu sais, j'étais pas. C'était le. Et pas mal de choses au niveau, maintenant que je me rappelle, il y avait quand même un contraste. Énorme entre cette expérience que je venais de vivre il y a le mois précédent sur le Colorado Trail, qui est quasiment tout en solo dans les montagnes, et là 10 000 personnes, Chamonix, la course, tout ça, c'est un peu différent, surtout quand le corps répond pas, quand je me sens pas très bien sur la course, que j'ai fait le voyage 5 000 miles jusqu'en France. Donc il y a tout ce côté-là qui est aussi pourquoi je suis là, au final je pense que la meilleure manière de j'ai donné ce que j'avais, ce que j'ai fait au mieux, je voulais finir, j'ai fini. Bon, après je sais pas, je dirais pas que en y repensant maintenant que je suis vraiment heureux d'avoir fait la Colorado Trail. je vais dire ça. Ouais. Et que ça a impacté l'UTMB, tant pis.
C'était ma question suivante. Merci de ruiner ma préparation soigneuse. tu regrettes justement d'avoir fait la Colorado? Non, tu regrettes donc pas d'avoir fait la Colorado Trail et d'avoir flingué ton UTMB alors que t'es coureur pro. Donc c'est ce qu'on attend de toi.
Ouais, oui et non, je dirais, parce que quand ce qu'on attend de moi, c'est d'être authentique, c'est d'être quelqu'un qui est coureur, oui, mais je suis aussi ambassadeur, et donc il y a une personnalité. Et moi, quand je parle de faire la Colorado Trail, parce que je sentais que la course ça commençait à me griller un peu, ça c'est une enfin c'est une vraie expérience, quoi. C'est quelque chose que je vis. Et moi, je pense que ma responsabilité, en fait, au niveau des marques et tout ça avec laquelle je travaille, c'est d'être honnête, tu vois, dans cette expression, et de dire que, bah, ouais, tu sais, j'évolue en tant qu'athlète, j'évolue avec ma perspective, et je suis très reconnaissant, en fait, du soutien et d'avoir la confiance de mes partenaires. Mais on a aussi un dialogue ouvert et un échange qui permet de se comprendre en tant que personne. Et plus que juste, ouais, tu représentes cette marque et il faut que tu dises ça, faut que tu fasses ça. C'est plus, bah, sois toi-même et fais au mieux et on continue de parler. Et puis, je pense que les gens répondent aux gens pas honnêtes, mais c'est pas ça que je veux dire, mais tu vois, qui sont vrais, quoi. Ouais, sincères, et c'est ce que j'essaye de faire, moi, dans ma carrière, tu vois, de coureur, c'est de dire que, bah, j'ai d'autres influences qui sont importantes dans ma vie, qui aident ma perspective en tant que coureur, et qu'au final, bah, c'est l'amour de la montagne, c'est l'amour des endroits dans lesquels on est qui est le plus important, et c'est ça que si c'est exprimé par la course, super, et si c'est exprimé par le vélo, bah, super aussi. Et donc j'essaye un peu d'allier ces choses et de montrer que c'est pas forcément si différent que ça et qu'il y a plus de choses en commun entre ces activités que pas.
Alors, je suis partagé entre deux choses. Soit je rebondis directement sur ce que tu viens de dire et on enchaîne sur les 49ers.
Vas-y.
Parce que du coup, c'était vélo et course à pied. Oui. Mais aussi, là, tu viens de parler de sincérité, que les gens répondent bien aussi. Donc voilà, je viens de faire mon choix. On parlera des 49ers dans 3 minutes.
D'accord.
Est-ce que c'est pas un petit peu la conséquence, justement, de l'avalanche d'infos sur les réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, où il y a plein de discours formatés, et toi, au contraire, t'arrives avec une image, enfin, en tout cas, avec ta personnalité sincère? Est-ce que, justement, c'est pas la conséquence de ce déferlement de fausses personnalités, de faux bons sentiments et de discours marketing?
Ouais, enfin, je veux dire, il y a de ça, c'est sûr, mais moi, je dirais que depuis le début, après, enfin, je suis loin d'être parfait en tant que personne mais c'est, je pense que c'est justement d'être le côté vulnérable, le côté, bah, voilà, quoi, j'ai une expérience en tant qu'humain, comme plein d'autres et elle est pas forcément plus importante qu'une autre personne, mais dans ce moment, j'ai une plateforme qui me permet de parler aux gens et dans cette communauté d'ultra et donc bah je sens qu'il y a une responsabilité, en fait, de dire les choses sincèrement et de pas, moi je pense que ça vient juste d'un amour, comme je disais avant, de la montagne et de la pratique. En fait, je veux pas vendre des choses aux gens. Je veux qu'ils prennent du plaisir à courir et qu'ils soient en montagne et voilà quoi. Ou qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Donc dans l'approche, je trouve marketing, quand le marketing est sincère, bah je trouve que ça a un côté plus c'est pas forcément ce qui marche le mieux au niveau parce que les grandes marques qui arrivent à pousser tout le marketing, bah forcément ils vont vendre plus, mais je pense que les gens qui vont trouver ces choses qui sont vraiment les produits qui sont développés avec vraiment le coureur en tête et tout ça, bah ça va peut-être mieux fonctionner pour eux, quoi. Enfin, c'est va peut-être être une expérience meilleure que je sais pas. Enfin, je sais pas comment dire. Je m'égare un peu dans ma pensée, mais Je sais pas si t'as une réaction à ça ou si.
Alors, s'il te plaît, monsieur Joe Grant, c'est toi qui as interviewé, n'inverse pas les rôles. Merci bien. Non, par contre, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que quand tu dis un marketing qui est sincère, déjà, j'y crois pas vraiment parce que par définition, le marketing a pas vocation d'être sincère. Et on pourrait plutôt opposer le marketing et le storytelling, même si le storytelling n'est pas toujours sincère. Mais beaucoup de marques aussi vont développer une histoire justement un petit peu plus authentique, comme Patagonia par exemple, ou enfin je sais même pas si t'es en contrat avec Patagonia ou pas, j'en sais rien, mais c'est juste que tu vois l'histoire du fondateur qui est québécois d'ailleurs est vachement plus intéressante que ou même l'histoire de Nike est très intéressante. Et c'est ça aussi, ce côté, au-delà du côté marketing, telle matière, tel machin pour aller plus vite, truc, et vous serez des héros. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'où vient la marque, pourquoi, comment ils ont fait, quelles embûches ils ont rencontrées, comment ils les ont... d'ailleurs, c'est ça le storytelling, c'est les embûches et comment on les surmonte. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Ouais, je suis d'accord.
Comme un coureur.
Je pense que, enfin, au niveau... les deux se rapprochent quand même pas mal, parce que c'est une question un peu de langage là, tu vois, dans le sens où l'histoire de Nike, c'est du storytelling, mais c'est aussi du marketing, tu vois, parce que c'est l'histoire qui devient un peu surréaliste, qui devient une sorte de mythe. Et c'est pareil pour Patagonia, le livre d'Yvan Chouinard sur Let My People Go Surfing, c'est toutes les bonnes choses.
Évidemment qu'on n'a pas les galères.
Voilà, et c'est une super histoire que je trouve qu'il y a beaucoup de sincérité dedans. Et je dis pas ça, mais c'est plus que c'est aussi un objet marketing, c'est aussi une création, et c'est ça ce que je veux dire un peu dans le côté marketing sincère, c'est de au final on crée des histoires, et si ces histoires sont authentiques, les gens répondent, je pense, de manière plus profonde, pas forcément parce que après, c'est ce qu'on, la manière dont on évalue ça. Si le succès c'est évalué par l'argent, forcément d'avoir la petite histoire, machin, sincère, tout, ça veut pas forcément dire qu'on va faire plus d'argent. par contre, ça veut dire que les gens qui vont acheter ce produit ou qui vont vouloir soutenir cette marque, le font parce que il croit que les gens ils sont dans ce sport ou cette activité ou quoi que ce soit pour les mêmes raisons, quoi, les mêmes valeurs. Donc il y a un partage entre ça qui est important, et c'est ça qu'en fait les marques essayent de faire au final, c'est que elles essayent de trouver les gens qui font vraiment leur activité, leur sport, parce qu'ils aiment faire leur sport et qu'il y a vraiment ce côté c'est parce qu'il y a plein, je crois que c'est les quand on voit les partenariats à long terme, ça c'est les vraiment les, je dirais, les beaux partenariats, c'est que l'entreprise croit dans l'athlète, l'athlète aide l'entreprise à développer les produits, mais aussi à avoir un côté plus authentique, parce que l'athlète est authentique. Donc il y a un côté réciproque qui est intéressant. Et voilà, mais bon.
Ouais, on pourrait débattre longuement là-dessus. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle des 14ers, qui est quand même finalement un projet qui... Parce que j'ai regardé plusieurs fois ton film. Et je dois dire que ce que j'ai préféré dans le film, c'est la fin. Les derniers plans où t'enlèves ta frontale... Et un petit peu comme d'une manière symbolique, ça y est, c'est fini, le projet est bouclé, donc je peux enlever ma caméra. Mmh. Et tu t'éloignes de la caméra, donc dans le même axe que la caméra, tu t'en éloignes, mais tu reviens, et finalement, à la fin, tu glisses sur le côté. Et j'ai trouvé la fin vraiment, vraiment, vraiment cool. Et en plus, du coup, c'est vélo et course à pied. Et est-ce que tu... Je vais pas raconter le truc, je vais te laisser le faire quand même.
Ouais, donc Cette fin, c'était l'idée, c'était de qu'au final, c'est le Colorado, c'est l'endroit. C'est pas moi qui est important en fait dans cette histoire, et que je suis sur le dernier sommet, mais que c'est au-delà un peu des sommets, des records, des machins, tout ça, et que c'est vraiment le Colorado, l'endroit qui est le plus important. Donc l'idée de ce projet, c'était donc un 14er, c'est un sommet à plus de 14 000 pieds. On en a 58 au Colorado, donc je crois que c'est 4200 mètres, un truc comme ça, en altitude. Donc on a 58 sommets. Donc l'état est très élevé en altitude. L'endroit le plus bas du Colorado, c'est situé à 1000 mètres. Et on a énormément de 13ers, donc juste un cran en dessous des 14ers. On en a 600, je crois, donc des sommets très hauts. Et donc voilà. Donc l'idée, les 14ers, c'est assez symbolique de l'état du Colorado, parce que c'est 58 sommets les plus hauts de l'état. Et donc l'idée, c'était de rallier ces 58 sommets en partant de chez moi et en finissant chez moi en vélo, et en courant ou en marchant tous les sommets. Donc la manière dont c'est organisé, c'est un peu les sommets sont il y en a un ou deux ou trois ensemble, et ensuite c'est séparé par 100 miles, donc 150 bornes de route en terre ou de sentier, et donc de faire ça, je me disais, en vélo, ce serait certainement plus rapide que à pied, et comme ça quand je faisais les sommets à pied, je faisais ça dans la manière dont je faisais normalement, donc avec un petit sac en courant, et avec tout le matériel, tout ça sur le vélo. Donc ça, c'était inspiré vraiment de mon expérience sur le Colorado Trail, et au printemps, j'ai aussi fait l'Arizona Trail, donc en printemps 2016. Donc j'avais ces deux expériences en bikepacking, et je suis parti un peu sur cette éthique de bikepacking, donc c'est do it yourself, c'est vraiment le résumé un peu de l'éthique de bikepacking. Donc tout ce que les gens tout ce que tu as accès dans les villes, par exemple, tu peux rester à l'hôtel, tu peux aller te ravitailler dans les supermarchés, tout ça, ça c'était dispo. Par contre, je pouvais pas appeler un ami pour dire, tiens, tu peux me rencontrer là pour m'amener un sandwich ou un pneu ou un truc comme ça. Je dois faire ça tout seul. Donc ça, c'était un peu les règles arbitraires que je m'étais fixées, de partir de chez moi, faire le tour du Colorado par tous les sommets, comme ça, en mixant les deux, bikepacking et course.
Pourquoi?
L'idée, c'était comme quand on a parlé un peu, tu vois, de vouloir faire le Colorado Trail. Et j'étais un peu un changement dans ma carrière, si tu veux, de perspective. J'avais envie d'autre chose, de faire quelque chose de différent. Et donc il y avait ça qui m'intéressait. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir voyager, de faire des courses partout dans le monde. Mais comme je disais avant, j'adore vraiment le Colorado, et j'avais vu qu'un tiers de ces sommets. Il y a deux tiers des sommets que j'avais jamais fait avant. Je voulais vraiment faire un projet qui était local, qui partait de chez moi pour explorer le jardin, quoi, le chez moi, et de voir les montagnes plus près de chez moi, et d'être plus intime avec ça. Et donc ça, c'était une manière assez condensée de le faire, forcément, mais aussi une manière, je pensais, qui pouvait avoir un intérêt au niveau peut-être de l'histoire qui allait en ressortir, au niveau, comme on parlait d'authenticité, d'essayer de faire des choses qui suivent son cœur, quoi, et suivent ses envies, et vraiment de créer ensuite enfin, de parler des raisons, en fait, de vouloir faire ce genre de projet. Je pense que ça, c'était tout ça, c'était un peu mélangé dans mon esprit à l'époque, dans les raisons pour lesquelles je voulais le faire.
Et tu t'attendais à ce que ça ait un tel impact sur toi au plus profond, parce que là, tu évoques des raisons un peu extérieures, le Colorado, le jardin, le nombre de pics, machin. Mais quand on regarde le film, on se rend compte que ça t'a chamboulé très profondément quand même.
Non, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je savais que ça allait être dur, et je savais que j'avais il y a un des sommets qui est privé dans le sud du Colorado, et donc il faut une autorisation. C'est $150, tu payes t'as un permis et que tu dois emmener pour pouvoir faire le sommet. Et donc j'avais eu mon permis. Pour, je crois que c'était le 30 juillet. Et donc, je suis parti de chez moi le 26 juillet. Donc, j'avais 4 jours pour arriver tout dans le sud de Colorado pour faire ce sommet. Et entre les deux, il y avait 400 miles de vélo et 8 sommets. 8 sommets entre chez moi et ce sommet dans le sud. Donc c'est quand même assez costaud au niveau volume de départ pour arriver à dans le sud à temps pour faire le sommet le 30. Et donc ça a mis grosse pression pour le début de l'aventure. Et moi j'étais parti avec l'optique, ouais, ça va être le truc génial pour moi, tu vois, je peux faire mon tour et prendre mon rythme au fur et à mesure, et vraiment le côté c'est la liberté d'être sur le vélo, de courir les sommets. Et en fait je suis parti mais pour énorme pression, en train d'essayer d'aller le plus vite possible pour arriver dans le sud à temps. Donc ça a mis une sorte de tempo un peu intense sur le début, et aussi très typique de ce que j'avais l'habitude de faire, donc plus axé, on fait la course, quoi. Donc le premier jour, j'ai fait 80 miles de vélo, donc ça fait, je sais pas, 120 kilomètres de vélo. J'arrive aux deux, je fais deux sommets, et donc ça me prend 4-5 heures pour faire les deux sommets, et ensuite je fais 160 bandes de vélo la nuit pour arriver à Pikes Peak le lendemain, pour pouvoir faire le troisième sommet, et donc ensuite ça a enchaîné comme ça. Et donc j'étais vraiment dans cette optique bikepacking, mais mode race, et donc avec avec mon passé ultra, c'était j'y vais, quoi. Et une fois que j'ai fini avec ce sommet privé, j'ai fait 4 autres sommets après ça, et ensuite j'ai cassé ma roue de vélo. Donc j'ai eu un stop forcé de 2 jours dans le sud du Colorado, et je suis resté 2 jours dans un petit hôtel à me faire réparer le vélo, et un petit magasin local. Et en fait j'ai eu le temps d'un peu de réfléchir, un peu de me poser, de souffler un peu, mais aussi de sentir un peu toutes les douleurs, le rythme acharné, tout ça. Et quand je suis reparti, je suis arrivé dans la zone où je vis actuellement, donc on appelle ça les San Juan Mountains. Et là, il y a 14 sommets dans les San Juan. Et il a plu pendant toute la semaine où j'étais là. Toute la semaine. il pleuvait des cordes, de la foudre, enfin c'était assez intense. Et je pense que d'avoir ce niveau d'intensité, en fait, avec les 14 sommets et je sais pas, l'endroit ici, il est assez magique. J'ai eu un changement d'esprit, en fait, à la mi-parcours. Où je me suis dit, mais en fait, je suis là pas pour faire une compète, pas pour avoir un record, pas pour faire tout ça, Mais je suis là vraiment pour l'expérience, quoi, pour être dans les montagnes et j'ai complètement changé en fait de mentalité. Mais ce que ça a aussi ouvert, c'est le côté plus vulnérable, plus ce que je suis vraiment à ce moment-là. Enfin, je suis fatigué, il y a l'accumulation, il y a tout plein de. Enfin, je mange pas de manière adéquate avec les arrêts aux stations-service ou ça, donc je suis assez cassé physiquement, mais mentalement, je suis aussi très ouvert à l'expérience. Et en fait, ça permet d'aller d'avoir des hauts et des bas qui sont extraordinaires, enfin assez colossales. Donc les hauts, c'est vraiment je suis sur le sommet du monde, quoi. C'est vraiment complètement animal dans l'environnement adapté. Je me sens c'est incroyable comme sentiment. Et en contraste avec ça, je suis assis sur un tas de cailloux en train de pleurer, avoir toutes les émotions, à avoir des pensées pour mes grands-parents qui sont décédés, des choses comme ça, enfin plein de choses qui sont venues à la surface pendant ces deux semaines qui ont suivi un peu ce changement de perspective. Et donc quand je suis rentré à la maison, c'était un peu tout ça qui m'est tombé dessus, enfin tout en même temps, quoi. Je venais d'avoir cette expérience très primaire, très animale, et là je rentre et il y a tout le record, tu vois. Tous les trucs habituels, quoi, les emails, la vie de tous les jours qui reprend son cours, qui s'est jamais arrêté, hein. Et j'ai eu beaucoup de mal à absorber ça, à arriver à me recalibrer, à me sentir bien dans ma vie de tous les jours, parce que j'avais tellement d'attachement en fait à cette liberté que j'ai découvert dans les montagnes, quoi. Et donc donc j'étais un peu, c'était assez dur le retour.
T'as mis combien de temps à récupérer mentalement?
Mentalement, je dirais que j'étais en dépression pendant je dirais 6 mois après. J'ai eu beaucoup de mal pendant 6 mois et ensuite j'ai une sorte de, je sais pas, de déclic un peu. C'est une dépression, tu vois, de situationnel. Donc une fois que je me suis rendu compte en fait que le problème que j'avais, c'est que par exemple la manière dont les gens interprétaient ou voulaient, par exemple les journalistes ou les gens voulaient interpréter mon histoire, c'était pas exactement, enfin, ce que j'avais ressenti ou ce que j'avais vécu. Et ça me dérangeait en fait que il y avait par exemple un titre de journal qui disait le Colorado Man qui conquiert tous les sommets, fait le record machin et tout, et je dis mais c'était pas du tout ça, quoi. c'était pas du tout ça mon expérience, et j'étais trop attaché en fait à l'histoire, à mon histoire, à ça, et j'avais trop intériorisé tout ça, et en fait je me suis dit que j'ai eu un petit déclic mental où je me suis dit, tu sais, c'est ton expérience, elle a été extraordinaire pour toi, et c'est tout, quoi. Et le monde continue, et si j'arrive à actualiser l'expérience et de la transposer dans ma vie de tous les jours, cet état un peu plus fluide, les hauts, plus cet état dans les moments où j'étais dans les hauts, même dans les bas d'ailleurs, où j'ai appris beaucoup, mais d'arriver à revenir dans la vie de tous les jours et d'avoir cette gratitude, enfin je me suis senti vraiment reconnaissant de tout ce que j'avais, de tout ce que j'ai dans ma vie, de beaucoup de, je sais pas, c'est je sais pas trop comment expliquer, en fait. C'est juste un changement de dire que j'ai pas besoin de posséder en fait cette histoire et que je peux la laisser vivre en moi et en apprendre les leçons et c'est assez quoi.
C'est ce que tu dis dans le film que au début t'es parti sur un truc très rationnel, une distance, des sommets, un record, mais qu'au bout d'un moment t'arrivais même plus à l'expliquer, t'arrivais même plus à expliquer ce que tu faisais, ce que tu faisais là, et que t'étais devenu un fantôme pratiquement.
Mm-hmm. Ouais, parce qu'au final, tu sais, enfin, tous les chiffres, machin, tout ça, c'est pas important. Enfin, l'expérience quand tu la vis de manière pleine, et c'est tellement intense et c'est tellement, enfin c'est tellement au-delà des petites comparaisons, des ah oh, j'ai fait ça, c'est mieux que l'autre, que machin et tout, c'est pas important. Et je crois que enfin il y a une sorte de, quand je suis rentré, j'ai pris du temps en fait à arriver à relâcher un peu l'ego, quoi. Tu vois, à relâcher un peu parce que le sentiment que j'avais en montagne, c'était un sentiment plus pur qui n'était pas associé à mon ego. Et quand je rentre dans la vie de tous les jours, bah j'ai le côté professionnel qui me dit, bah ouais, mais tu dois promouvoir ça comme étant quelque chose que t'as fait qui est bien, quoi. Tu vois, tu dois en créer une sorte d'histoire de héros, quoi, parce que c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les gens, en fait, c'est ça, ça revient un peu à notre conversation sur la sincérité, tu vois, c'est en fait ce que les gens veulent, c'est la sincérité, c'est pas le héros, mais c'est dur de se rendre compte de ça, parce que en fait, enfin dans le moment, c'est pas toujours facile de dire que ouais j'ai souffert pendant ce voyage. Honnêtement, j'ai eu du mal sur beaucoup de jours où vraiment j'étais pris par les émotions, j'étais épuisé. Enfin, c'était hyper dur, quoi. Et c'est dur. Enfin, je sais pas d'admettre ces choses et que les gens, enfin, sans pour autant. Je sais pas exactement où je vais avec cette pensée, mais de dire ouais,
d'admettre que t'es vulnérable, tout simplement, et que t'as souffert comme n'importe qui.
Oui, parce que l'histoire, si tu veux, quand on revient au marketing et tout ça, l'histoire qu'on veut faire des athlètes, de tout ça, c'est quelque chose d'héroïque, c'est quelque chose de, tu vois, on est là, tu vois, ah, c'est le record, qu'est-ce qu'il a gagné, tu vois, c'est toujours cette optique de très compétitive dans notre approche, très comparative aussi dans notre approche, et je sais pas, il y a un côté de moi qui enfin c'est pas moi, quoi. J'arrive pas à vouloir tout, enfin l'expérience que j'ai eue sur les 49ers, c'était pas une expérience de conquérant, c'était pas une expérience de héros, c'était une expérience d'un intime, personnel, vulnérable, tu vois, et j'en ai appris beaucoup, et je voulais, en fait, j'arrivais pas encore à formuler, à trouver les mots, à trouver même l'explication, en fait, dans ma tête, de que c'est ça qui se passait, tu vois, j'avais pas la perspective encore, donc c'est pour ça que j'ai pris du temps à absorber tout ça, à comprendre tout ça. Et je continue à en apprendre aujourd'hui.
Et aujourd'hui, tu t'es détaché de ton ego ou c'est encore, il est encore un petit peu là
Oh, bah bien sûr qu'il est là. Bien sûr qu'il est là.
Donc t'as encore envie de faire la course?
Ben oui, mais enfin, je veux dire, c'est ça. Enfin, l'ego est toujours là. Et je pense que mais c'est bien parce que ça pousse à réfléchir, à d'essayer d'être plus serein, d'être moins arrogant dans nos actions et plus je sais pas, d'être plus humble, en fait, tu vois, dans l'approche, et de me rendre compte que bah c'est enfin tout est une question de perspective, en fait, parce que quand tu regardes un record comme ça, t'as les conditions, t'as le soutien, par exemple. Moi j'ai le privilège, tu vois, de pouvoir prendre un mois et d'aller balader en vélo dans le Colorado, parce que c'est mon boulot, tu vois. Mais c'est pas donné à tout le monde, ça. Donc c'est un record qui est aussi qui est basé dans un système qui est pas égal. Et donc de dire que le record c'est le côté ultime, c'est pour moi c'est pas la bonne manière de penser. C'est de voir que, en fait, toutes les autres choses qu'on apprend sur soi-même en faisant des challenges, peu importe la distance, peu importe l'endroit, c'est, on se fixe des objectifs, des challenges qui sont qui ont une raison personnelle de pouvoir grandir et d'apprendre quelque chose sur soi-même. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment de la valeur dans tous ces sports et dans tous ces projets. C'est...
Quand vous avez monté le film, il t'a fallu combien de temps, ou est-ce qu'il t'a fallu du temps pour entre guillemets valider la séquence, la séquence vers la fin où tu descends en marchant et en pleurant et en disant que t'es submergé par les émotions, etc. Overwhelmed. Ça a été instantané, tu t'es dit ouais je le mets, ou ça t'a quand même pris un petit peu de temps à admettre que on pouvait mettre un athlète de haut niveau en train de pleurer sur un défi?
Honnêtement, l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est on peut mettre tout ce que j'ai fini 39 heures j'avais 39 heures de GoPro. Ouais.
pour faire 17 minutes de film. Putain.
Voilà. comme quoi l'histoire, tu vois, c'est beaucoup plus c'est la difficulté de créer une histoire, d'arriver à trouver le fil. Non, parce que moi j'ai dit à Dean, c'est tout Dean à Leslie qui a produit le film, c'est lui qui a tout fait. Moi j'ai filmé tout moi-même et je lui ai donné 39 heures de film et j'ai dit bon. Et bien sûr on a parlé ensemble, on a créé le concept, j'ai fait j'ai écrit l'histoire avec lui, enfin on a travaillé ensemble dessus, mais au niveau de la sélection d'images, c'est vraiment lui qui a trouvé la, parce que cette séquence là elle est plus longue, il y a une séquence plus longue, et on avait une version qui était plus longue, qui était plus il y avait beaucoup moins d'autres images dans le film. C'était vraiment juste une séquence de 10 minutes 15 minutes où moi je descends et je dis tout ce que je pense, quoi, sur Et il y a un côté qui est intéressant avec ça aussi, c'est tiens, c'est peut-être le moment qui fait que toute l'histoire retombe là-dessus. Et puis après on s'est dit que il y avait quand même d'autres choses à montrer, et que c'était il y a eu plus de cohésion, en fait, si on montrait plus de choses.
Il lui a fallu combien de temps pour monter pour faire l'ensemble, parce que extraire 17 minutes de 39 heures, ça veut dire qu'il aurait pu faire peut-être 10-20 versions différentes, 10-20 histoires différentes.
Ouais, il nous a fallu pas mal de temps pour créer le film, parce que, en fait, il y avait aussi, c'était un projet personnel, donc il a fait avec moi. Donc nous, on a travaillé ensemble de manière indépendante, donc on n'avait pas de sponsor pour le film. Ouais. Et c'était un peu. Enfin, il y avait un côté intentionnel, parce qu'on voulait pouvoir faire le film qu'on veut. Donc on voulait pas qu'il y ait ça et tu peux pas pleurer sur la caméra, ou tu vois ce que je veux dire, on voulait pas que l'histoire soit impactée, en fait, par une influence extérieure. Donc parce que c'était un projet personnel, il avait tous ses autres projets professionnel qui était en train de se faire, donc je crois qu'on a fait ça sur un an ou deux ans, ça a pris du temps, hein. Ouais.
Tu veux dire que des sponsors auraient mis un petit peu, auraient validé ou mis un veto sur de la fragilité ou de la vulnérabilité?
Pas forcément ça, mais juste que il y a toujours, ça change en fait, ça change l'objectif du film. Quand tu travailles avec un sponsor, par exemple, enfin c'est normal, normalement il y a un but pour eux, enfin il y a une histoire que eux ils veulent, qu'ils veulent avoir. Enfin, tu peux pas, c'est pas que tu peux pas dire ce que tu veux, mais c'est que tu peux, il y aura d'autres personnes impliquées en fait dans la création du film qui font que l'histoire va pas forcément être exactement pareille ou focalisée sur les mêmes choses. Et donc il y avait un petit peu une envie de faire quelque chose de plus indépendant, de plus, ouais, personnel. Pas avoir et ça permet aussi d'avoir moins de pression, parce que, et de laisser mûrir le film, de pouvoir travailler sur les idées, d'en parler, de, tandis que si on a il faut que ce soit prêt à Noël ou quoi que ce soit, si t'as pas toujours le temps en fait de mûrir les idées. Et honnêtement, j'étais pas dans le bon état d'esprit, hein. De 6 mois après, comme je te dis, j'étais pas dans le meilleur endroit pour vraiment faire le travail de la manière dont je voulais. Donc
Et si tu le refaisais maintenant, il serait vraiment différent ou pas?
Ben, je pense que ouais, il serait très différent dans le
forcément,
sens
forcément il serait où... différent, mais vraiment vraiment ou globalement peu.
Je pense que la chose que moi j'aime le plus en fait avec le film, c'est que ça représente un moment. Ça représente l'été de 2016, pendant le mois que j'étais en train de faire ce voyage. Et je pense qu'il y a le côté temporel et le côté d'avoir moi avec mes idées et ma personne à ce moment-là, en train de faire cette chose-là, c'est ça qui est intéressant. Et donc maintenant, si je refaisais ça, j'aurais l'expérience du passé, tout ça. Donc, c'est pas que j'aurais peut-être une expérience plus profonde ou moins, je sais pas, mais différente, c'est sûr. Ouais. Donc, je pense que le refaire dans le style, je changerai pas grand chose au niveau du matériel, de tout ça, du style dans lequel j'ai fait ça, j'ai toujours la même, un peu le même point de vue là-dessus.
En tout cas, tu m'as bien fait rire quand t'es au sommet du mont Elbert et que tu vois le carton d'un mec qui a laissé son carton et tu dis ouais, super, t'as monté ça, mais tu pourrais quand même les emmener avec toi quand tu repars.
Ouais, c'est ça, c'est ouais, les gens amènent
la vanité finalement, ce petit côté vaniteux.
Voilà, et tu fais ton selfie sur le sommet avec ton petit panneau qui dit le nom du sommet et l'altitude. Et Elbert, c'est le sommet le plus haut du Colorado. Et donc voilà, il y a plein de panneaux comme ça qui restent en haut des sommets et c'est un peu n'importe quoi. Donc si tu fais le sommet, tu peux au moins redescendre avec ton panneau, quoi.
C'est ça, c'est le véritable amour de la montagne, donc qui s'exprime. Et du coup, 2020-2021, ça s'est passé comment 2020 et comment se profile 2021 pour toi? Bah oui, forcément pour toi.
Ouais, alors 2020, alors j'ai déménagé de Gold Hill à Durango au printemps. Donc ça, c'était un assez grand changement, surtout en plein milieu d'une pandémie. Mais on a eu de la chance parce qu'on on déménageait pour le travail de ma femme. Donc donc ça, c'était. On adore le sud. Il y a moins de monde. Et donc on a beaucoup de chance de pouvoir être ici. Donc ça, c'était vers le printemps dernier. donc il y a un an exactement. Et ensuite, j'ai commencé à travailler sur un projet l'été dernier, que c'est un itinéraire en fait que je trace, qui fait le tour des montagnes ici, les San Juan Mountains, et ça fait 400 miles, et c'est un itinéraire qui couvre en fait les plus beaux spots de cette chaîne de montagnes. Et donc l'idée, c'est de proposer ça un peu comme un itinéraire que les gens peuvent aller faire, et donc je veux refaire ça cet été, parce que j'ai pas pu le compléter l'été dernier. Mm-hmm. Mais j'ai pas mal travaillé dessus, et donc je veux faire des photos et un petit film cet été sur ça, et le faire en fast-packing vers le début de l'été. Et ensuite, je travaille sur un autre projet à la fin de 2019. J'ai couru la Colorado Trail, dont on a beaucoup parlé avant. Donc, je l'ai fait à pied. Et donc, c'était pour rallier ma maison dans le nord à Gold Hill à ma maison dans le sud ici, dans le Colorado. Donc, j'ai appelé le projet Home to Home. Et donc, c'était vraiment l'idée de courir, si tu veux, l'artère du Colorado et du nord au sud, et de rallier les deux. Et donc, j'ai fait ça un peu de manière atypique avec trois amis à moi, deux photographes et un musicien. Et donc, on n'avait pas de fichier Excel et tout ça dans la prépa. C'était plus en freestyle, et on est parti. Donc eux, ils étaient, c'était mon équipe de soutien. On est parti pour faire tout le sentier ensemble, et moi en courant, et eux dans le truck à me suivre. Et l'idée, c'était de faire un portrait du Colorado Trail en utilisant des appareils argentiques, et aussi en filmant avec du 16 mm. Et mon ami musicien a fait un petit album de 4 chansons qu'on va sortir en vinyle. Et donc on va faire des 3 livres photos et un vinyle et un petit film en 16 mm. Tout ça, ce sera pour l'automne de 2021. Donc ça, c'est maintenant j'ai fini de courir, donc c'est plus le côté artistique et travailler là-dessus qui va prendre du temps cette année, mais on avance bien sur ce projet-là, et voilà. Et donc l'idée là, c'était vraiment de un petit peu ce retour aux sources aussi, de vouloir éteindre les téléphones pendant 8-9 jours qu'on a été sur le sentier, et de vraiment être présent et de tout documenter de manière analogue pour vraiment créer sans distraction et pas avoir le « Ah tiens, faut que je check si j'ai eu la bonne photo ou pas, c'est ce que t'as pris et voilà. » Donc j'avais un rouleau de film 36 expos par jour, et voilà, c'était mon... Donc ça, je suis super excité par ce projet-là. Ça va être super bien, je pense. Enfin, ça a été super de travailler avec mes amis là-dessus, et ça, ce sera pour l'automne de cette année.
C'est en couleur ou en noir et blanc?
Moi, j'ai tout fait en noir et blanc. Mes amis, c'était en couleur et un peu de noir et blanc. Mais moi, ouais, sur le sentier, j'ai préféré juste faire une pellicule par jour et noir et blanc.
Et t'as choisi quoi comme film alors
pour faire ça? Kodak Tri-X.
La meilleure, la plus belle.
J'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup Ilford aussi, mais pour ça, là, y a, le contraste est élevé. C'est du 400, donc c'est assez rapide aussi comme film, et il y a beaucoup de... Ouais, j'aime bien le rendu, et c'est un côté
Tu reconnais tout de suite le rendu Tri-X. Il est contrasté, il y a un petit grain, ça se développe bien, ça se tire bien, c'est solide, quoi. Ouais. C'est fiable. C'est ça. Ça correspond bien à l'esprit de ce que tu veux faire finalement.
Ouais, c'est ça. Et d'avoir un outil fiable et puis je pense que ça représente bien le sentier, le sentier assez rugueux, tu vois, et la météo, tout ça, et il y a le côté puis tu passes par des villes comme Gold Hill, un peu minières, tout ça, donc il y a je pense que c'était le bon choix pour moi pour documenter ça.
Bah, le faire en numérique et ajouter du grain derrière, c'était un petit peu, ça aurait été dommage quand même.
C'est ça, ouais. Non, et puis c'est pas que le numérique. Moi, je shoot beaucoup aussi en numérique, mais là, c'était,
ouais,
c'est de faire des choses un peu plus avec ses mains, quoi, de retourner à. Parce que la course, c'est ça. Au final, c'est tactile. Et donc la production en fait de médias, de faire ça de manière tactile aussi. Je trouve qu'il y a un beau parallèle avec la pratique de la course.
Et musicalement, ça va donner quoi? C'est plutôt quel genre?
C'est guitare acoustique.
Donc folk.
Plutôt Chris, donc mon ami qui est musicien, est plus il est plus blues un peu il est très talentueux et j'aime beaucoup ce qu'il a fait, donc ça va être cool. Puis d'avoir un vinyle aussi, c'est le côté tactile aussi est cool, ouais. Avec ça,
ouais. J'ai hâte d'écouter, ouais. Ça. Du coup, c'est con, ça contraste un petit peu avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les 14ers, mais du coup, tu fais plus de courses.
Je fais peut-être le tort des géants si la pandémie, tout ça, si je peux me rendre en Europe, ça fera quasi 2 ans que je suis pas retourné en. Ouais, ça fera 2 ans d'ailleurs que je suis pas retourné en France et. Donc l'idée d'essayer d'aller voir la famille et de combiner avec le Thor, ce serait cool.
Pourquoi le Thor plutôt que l'UTMB?
Ouais, le Thor c'est plus mon style. Le Thor c'est extraordinaire, hein. C'est sauvage, c'est la Vallée d'Aoste, les gens sont extraordinaires. Pas que l'UTMB n'est pas génial aussi, hein, mais il y a quelque chose de l'autre côté de Chamonix, il y a quelque chose qui est pas mal dans cette vallée italienne.
C'est à quelle époque?
C'est en septembre. C'est la deuxième semaine de septembre, je crois.
D'accord. Ouais.
Et, puis c'est sur une semaine, pour moi c'est plus proche au niveau du style que l'hard rock, dans le sens où tu pars un peu en montagne et forcément il y a les refuges et les ravitaux et tout ça, mais il y a quand même j'ai vraiment l'impression de me rendre quelque part, tu vois, c'est le côté un peu plus aventure de la course, où tu vas d'un refuge à un autre, tu passes un col, tu es dans une autre vallée et il y a les ruines romaines, les petits villages, tout ça, c'est assez extraordinaire comme course. Donc on verra, c'est aussi, ça a toujours été un peu je l'ai fini une fois et j'ai eu des soucis les deux autres fois où je l'ai tenté. Ouais, j'aimerais bien refaire la boucle et faire ça bien. Donc, on verra.
Ah, t'as quand même une petite revanche à prendre, donc toujours un petit peu d'ego qui traîne, en fait, comme tu me disais.
Ouais,
tout à l'heure.
De faire les choses à son potentiel, c'est toujours, c'est toujours un bon côté, quoi. Je veux dire, d'essayer. Je sais que sur le Thor, je peux bien faire. Et je peux faire une bonne course là-bas et j'ai envie de faire ça. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'essayer plusieurs fois et j'ai pas réussi. Donc, il y a toujours un petit côté, ouf, ce serait bien d'aller finir le boulot, quoi.
Mi-septembre. Vu ce que tu m'as dit tout à l'heure sur la Colorado Trail, je te propose pas de faire le tour du Mont Blanc à vélo par les chemins fin août.
Non, on va essayer. Je vais être
fais
beaucoup plus calme.
Ouais.
Ouais. Et puis tu sais, c'est marrant parce que tout ce qui est, enfin, toutes les restrictions au niveau de la pandémie, tout ça. Bah, honnêtement, c'est bien pour le voyage international parce que bah moi j'ai chopé une bronchite, j'ai chopé la grippe, plein de choses sur les avions, quoi. Donc c'est avec le masque, avec tout, il y a moins de risques à ce niveau-là aussi, donc ça c'est pas mal, ça a changé un peu l'approche du voyage.
Ça la simplifie, tu veux dire, pour toi, quand tu changes de pays, ça t'évite les désagréments des climes, de ces trucs-là et les mauvaises surprises à l'arrivée?
Ouais, c'est ça, c'est quand même assez taxant, enfin de voyager. Quand tu prends 2-3 vols,
ouais.
T'es dans les aéroports, dans les avions. Enfin, c'est surtout quand tu te prépares pour une course que t'as vraiment la forme. T'es aussi t'es aussi un peu vulnérable parce que le système c'est un équilibre qui est assez dur à bien gérer. Donc souvent, ouais, quand je voyage, ça a été quelque chose qui, je suis pas stressé ni rien, mais c'est un environnement où il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent impacter ou influer sur la course ensuite. Et puis, ouais, donc c'est d'essayer d'arriver serein et pas avoir chopé une grippe ou un truc, parce que c'est ce qui m'est arrivé au Thor 2 ans de suite, hein. J'ai la première année, c'était une infection à une otite. J'ai eu une otite. Mmh. Et l'année suivante, c'était une bronchite. Et super mauvaise bronchite. J'en ai eu pour 5 semaines. J'étais hyper, hyper malade. Ça, je l'ai chopé en voyageant, quoi, dans l'avion. Mmh. Donc bref, c'est juste d'avoir ces, d'être masqué et de voyager de manière plus prudente, peut-être ça va j'espère, ça va aider.
Tout à l'heure tu m'as dit avant l'UTMB tu avais encore un petit peu le voyage dans les pattes, le déplacement Colorado Chamonix. T'arrives combien de temps avant une épreuve comme par exemple l'UTMB? Bon là le Thor c'est un peu différent parce que je suppose que tu auras visité la famille avant, donc t'auras eu tout le temps de récupérer du décalage, mais par exemple pour l'UTMB t'arrives combien de jours à l'avance?
Moi, je trouve une semaine, c'est bien. Je trouve 5 jours, c'est possible. Et en fait, ça dépend parce que sur des courses comme ça, où on va passer une nuit blanche ou plusieurs avec le Thor, c'est un petit peu moins important tant que j'arrive à dormir quand j'arrive. Quand j'arrive dans le pays, c'est d'essayer de se caler immédiatement sur un bon rythme, d'essayer d'aller se coucher tôt. Enfin, souvent, je suis fatigué avec le voyage. Donc, si j'arrive en soirée, c'est idéal. Parce que t'arrives, t'es assez claqué, tu vas te coucher, tu te réveilles et tu prends quasiment le rythme de suite. Mais ça peut arriver d'être un peu en décalage. Et moi, je pense que c'est juste, c'est tout en fait, c'est le changement d'environnement, parce qu'il y a des demandes quand même au niveau de la, tu sais, de la concentration, d'être prêt pour la course et tout. C'est plus facile si je me rends à l'Hard Rock, tu vois, c'est à 1 heure de chez moi. Tu vois, je peux y aller le matin même quasiment, tu vois. Et il y a quand même une différence quand t'es dans un environnement différent. Et donc de prendre assez de temps pour être bien le jour de la course. Mais là par exemple pour le Thor, je vais essayer de voir la famille après parce que justement avec ça en tête, j'aime bien arriver, j'ai 5 jours, une semaine, je me cale, je me repose et t'es je suis focalisé sur la course et pas sur autre chose. Mmh. Comme ça, je suis bien dedans et ensuite, je peux décompresser et faire ce que je veux. Mais ouais.
Est-ce que même en étant français, quand tu arrives à Chamonix, tu ressens quand même un décalage culturel?
Ah ouais, ouais, carrément.
Ouais.
Ouais, c'est même, tu vois, là, au niveau de notre conversation et tout, c'est de trouver, enfin, tu vois, c'est le rythme des mots, de tout ça, enfin, c'est.
Ah, mais ça s'entend, il y a des mots que t'as traduits en français, s'entend que c'est, enfin, ça se sent que c'est une traduction, entre guillemets, une mauvaise traduction de l'anglais.
C'est ça, c'est
l'anglais. J'ai complété le tort. On dit pas ça en français.
Voilà.
Mais c'est normal. C'est parfaitement normal. Ouais. Je me moque pas, tu vois. C'est logique de faire le pont et d'avoir du mal à un moment donné, quoi.
Et c'est normal, c'est surtout pour toi. Que quand je suis en France et que je pratique tous les jours, que je parle tous les jours, tout le temps, là, je ferais pas ce genre d'erreur, tu vois. Parce que c'est, t'as tous les automatismes, même au niveau de, là, c'est aussi parler de sport que je parle, j'en parle en anglais en fait, donc même tous les mots techniques, toutes les, tu vois, c'est même les pensées que j'ai formulées au niveau de ces sujets, enfin les questions que tu me demandes, on me les a demandées ou des questions similaires, tu vois, en anglais, et donc j'ai répété ce genre de réponse, enfin pas exactement, mais tu vois ce que je veux dire. Donc d'en faire
super original en fait. Ah, je suis déçu. Merde.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est,
oui,
c'est,
je comprends.
T'as une sorte de, enfin, ouais, c'est des choses à laquelle je pense plus en anglais parce que c'est ma vie de tous les jours et que c'est la langue que je pratique le plus souvent. Mais après, bon, c'est j'ai quand même toujours la famille en France. Bon, mes parents sont anglais, donc je parle avec eux, mais je parle en anglais. Ma sœur, elle habite à Nantes et elle, on s'est toujours parlé en français. Donc, je parle en français avec elle, mais en anglais avec mes parents. Donc, ça prend toujours, ouais, un petit peu de temps de reprendre les automatismes et après, ouais, arriver dans le pays, t'as des choses que, en fait, vu que, je les ai pas vus depuis longtemps, que j'ai oublié, quoi, dans la manière de fonctionner des Français, tout ça, tu vois. Il y a plein de choses que, c'est vrai, je me rappelle ça, ou des perspectives que j'avais pas avant, que tu vois, je m'en rends compte maintenant, en vivant à l'étranger, aux US depuis longtemps.
Et quand tu accompagnes Anton, justement, sur l'UTMB, c'est à la fois pour l'assister, mais est-ce que tu as un petit peu aussi un rôle d'adaptation, entre guillemets, à la culture française, mais qui pourrait être la même dans n'importe quel pays? Il y a forcément un décalage culturel, quel que soit le pays, c'est pas la spécificité française.
Ouais, j'essaye de l'aider comme je peux. Après, il y a le côté traduction, tu vois, tout ça aide quand même pas mal. Après, dans la course, la course, c'est la course, quoi. Je veux dire, c'est assez similaire avec, une fois qu'il a compris, tu vois, les règles, les ravitaux, les trucs, tout ça. Mais tout ça, c'est traduit en anglais forcément, on peut accélérer un peu le procédé, quoi. Donc, ça, c'est sûr. Mais sinon, je sais pas. Mais si on est ensemble et lui qu'est-ce que je veux dire, il m'utilise, si tu veux, pour c'est pas la bannière, c'est pas le bon mot, tu
vois, en parlant, mais dis-le de, comme ça, tout le monde comprendra, t'inquiète pas
de chercher mes mots. Non, mais tu vois, il a un avantage, si tu veux, d'avoir un interpréteur qui peut faire le pont, si tu veux, entre la langue et la culture, donc ça aide un peu à s'adapter un peu plus vite. Mais je pense que le Chamonix, c'est tellement international comme feeling, enfin là-bas, c'est, t'as des gens de partout, c'est, tout est traduit en toutes les langues, enfin c'est quasiment pas français, quoi, dans le sens pur de l'idée.
Ouais. Tu sais quoi, je crois bien que j'ai fait le tour, mais j'ai quand même une dernière question, et malgré tout ce qu'on a dit, je crois bien que c'est la question la plus intéressante et la plus importante. Comment va ton petit chien?
Très très bien, ouais, elle est super. Bon. C'est d'ailleurs, je l'ai appelée Luce, donc parce que j'ai grandi à Sainte-Luce, donc à l'extérieur de Nantes. Donc petit clin d'œil à la France avec avec Luce. Et ouais, elle est super. Elle vient d'avoir un an, donc on court beaucoup ensemble en ce moment. Et j'ai attendu qu'elle ait un an pour qu'elle soit complètement formée et tout ça. Mais ouais, c'est super. On peut aller faire des belles sorties ensemble et c'est mon petit partenaire.
Ton sparring partner.
C'est ça.
Ouais. Eh ben, écoute, moi, je vais te remercier pour ces 2h23 qu'on vient de passer ensemble. Ça valait vraiment le coup qu'on galère hier soir à réussir à se connecter. Il va te rester une dernière tâche à accomplir qui s'appelle la minute de solitude. Je vais poser mon micro. Je vais sortir de la pièce et toi, pendant ce temps-là, tu dis ce que tu veux. Et quand t'as fini, tu raccroches. Et ça peut prendre le temps que tu veux, alors voilà.
D'accord, ok. Putain, j'ai beaucoup parlé, je crois que j'ai dit...
Ouais, mais t'as sûrement... Enfin, je te laisse faire, j'ai toujours eu des bonnes surprises avec ça. Même les mecs les plus bavards à qui il était arrivé des trucs les plus invraisemblables et qui nous avaient raconté en live... Même pendant leur minute de solitude, ils ont été capables de me surprendre et de faire des trucs encore plus abracadabrants. Donc, je sais, c'est un petit peu de pression pour toi, mais voilà. Ok ?
Ça marche.
Merci beaucoup, Joe. À très bientôt.
Allez, ciao. Bon, la minute de solitude. Écoute, je m'étais pas rendu compte que ça faisait 2h20 qu'on discutait. Donc je suis prêt à aller faire un peu le dîner et ouais, bah écoute, c'était super de d'échanger et de parler de vélo et de course. Et ouais, ça m'a fait plaisir d'échanger et puis de voilà, maintenant j'hésite, je suis un peu la pression avec cette minute. Je sais pas trop quoi dire, donc je te remercie, merci aux écouteurs et bonne fin de soirée à vous en France et ciao, bonne soirée.